regarder là, t'as pas mis sur la table.
Non, je vais le mettre sur la table.
Pas, hein.
Non.
Non, je vais juste attendre le coup.
J'arrive.
C'est parti.
Bien, donc comme je vous l'ai dit, on va parler aujourd'hui d'un sujet dans le bouddhisme qui est important, à savoir celui des divinités. Le tout pour répondre à une question que j'ai eue. Alors, si vous voulez, on va essayer de reprendre à plat, c'est la manière dont on traite sur ce problème, enfin ce qu'on peut juger comme étant un problème, c'est-à-dire de l'existence dans le bouddhisme, et quand on lit le Sutra du Lotus, on voit bien à la fois de divinité, et puis aussi d'une autre manière de personnages qu'on pourrait dire fantasmagoriques. Ça va des dragons à certaines formes de centaures ou de ce qu'on appelle les Gandharvas ou toutes sortes de personnages que théoriquement on ne croise pas tous les jours. Et vis-à-vis de toute cette mythologie et parfois également de ce bestiaire, on peut se demander un peu de quoi il s'agit. Alors, une première chose qu'il faut voir, c'est que le bouddhisme a repris une grande partie de ce qui formait la mythologie ancienne de l'Inde. Il a repris également, comme on l'a vu, un certain nombre des concepts fondamentaux de la pensée antique de l'Inde. Par exemple, la notion des actes, du karman. Ensuite, le bouddhisme s'est propagé. Bon, ça a pris quand même longtemps, et puis ça a fait un détour immense vers l'Extrême-Orient, et il s'est accompagné, cette propagation s'est accompagnée de l'incorporation dans ce qui, au fur et à mesure, dans le bouddhisme du grand véhicule, a formé un véritable panthéon de divinités qui appartiennent également au monde chinois, et qu'on arrivait jusqu'au Japon, au monde japonais. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que les divinités en question, par exemple, dans le cas du Japon, il y en a au moins deux. C'est Hachiman, que l'ancien dieu de la guerre, qu'on a qualifié de grand Bodhisattva, ou la déesse qui éclaire les cieux, Amaterasu Omikami, qui serait, qu'on peut également prononcer à la chinoise Tensho Daijin, qui serait donc à l'origine de la lignée impériale du Japon. Et ces divinités ont été un peu incorporées dans le bouddhisme. Ils figurent d'ailleurs, ils sont écrits sur le Gonzo. Il y a un grand nombre de divinités qui sont écrites. Et du coup, ils ont pris un certain nombre, on pourrait dire, de caractéristiques bouddhiques. Alors, néanmoins, il y a une permanence de la pensée vis-à-vis de ces divinités qui existe et qui vient de l'Inde antique. Je dirais que les apports chinois puis japonais, on va voir de quelle manière ils ont un petit peu modifié les choses, mais finalement très peu. C'est-à-dire que la constante qui existe vient de la pensée antique de l'Inde. Alors on va voir dans quel système, dans l'Inde antique, ces divinités prennent place. Alors ce monde des dieux, ce monde des divinités, fait partie d'un système qui s'appelle les six voies. Alors ces six voies, vous les connaissez déjà en ce sens, où c'est les six premiers mondes, c'est le cycle du samsara, qui forme les six premiers mondes, c'est-à-dire les mondes, je dirais, non bouddhiques, et à partir duquel les états de conscience propres au bouddhisme permettent une échappée hors de ces six mondes. Et donc, ce sont ce qu'on appelle dans le bouddhisme les quatre saints, les quatre ou quatre sages, ça dépend des traductions, sont donc les mondes des auditeurs, ensuite le monde des éveillés pour soi, le monde des bodhisattvas et le monde des bouddhas. Et donc, de ce point de vue-là, le bouddhisme jette un point de vue sur les autres religions qui signifie qu'on pense que les autres religions cantonnent. Alors c'est un point de vue bouddhiste, hein, les spectateurs des autres religions ne seraient pas forcément enthousiastes vis-à-vis de ça, mais cantonnent leurs aspirations jusqu'au sixième monde, c'est-à-dire le monde des dieux. C'est pour ça que les autres religions, on pourrait dire, culminent par un personnage de type divin. Alors, vous voyez les différentes religions, que ce soit des religions actuelles ou des religions qui n'existent plus comme le... comme les religions des Grecs anciens ou des Latins, etc. Voire même certaines des religions chinoises. Alors, dans cette conception, la transmigration, c'est-à-dire le fait que sans cesse nos actes font que de la vie doit revenir. Alors, c'est plus nous, mais c'est ce que nous avons été. Une fois qu'on meurt et que l'on renaît, se passe dans ces six voies. C'est-à-dire qu'on les appelle également les six destinées, gati, et ça veut dire que suivant les actes qui ont été effectués, donc ça c'est vraiment la pensée indienne, hein, le bouddhisme l'a repris, mais c'est également une sorte de tronc commun aux religions de l'Inde très ancienne, que vous retrouverez dans le brahmanisme, dans ce qui est devenu par la suite l'hindouisme, également par exemple dans le jainisme. Et donc, on peut revenir. Alors, revenir, c'est pas. C'est, on va voir que ces mondes, en fait, sont localisés. On peut revenir, donc, ou bien, c'est une sorte de. Un peu comme le jeu de la marelle. Ça va de l'enfer au paradis, si on veut. Et on peut revenir, donc, ou bien sous une forme infernale, c'est-à-dire, donc, en subissant des tourments énormes, ou bien alors sous la forme de ce qu'on appelle des esprits ou des revenants affamés, donc qui sont des êtres qui sont dans un statut qui est assez intermédiaire entre les vivants et les morts, et qui sont uniquement mus par un appétit qui ne peut pas être satisfait, qui est une condition également très inférieure, ou bien sous la forme d'un animal, hein, quel que soit cet animal. Ou bien sous la forme d'un asura, alors on verra un petit peu plus en détail tout à l'heure ce que sont ces espèces de dieux, de démons, parfois c'était traduit par le terme titan, les asuras, ou bien sous la forme d'un homme, hein, c'est ce que nous sommes à l'heure actuelle, donc nous sommes théoriquement des habitants du monde des hommes, ou bien à un niveau plus haut, sous la forme d'un dieu. Et dans ce cas-là, on habite au ciel. Dans un domaine céleste. Et le ciel lui-même, dans ses conceptions, on va le voir, est extrêmement étagé. Alors, les quatre premières destinées, c'est-à-dire qui vont du monde infernal jusqu'au monde des Asuras, sont jugées comme étant de mauvaises destinées. Alors, pourquoi mauvaises? Enfin bon, déjà, c'est des états de vie qui ne sont pas très tentants, mais elles sont. Nous, on les juge mauvaises parce que ce sont des destinées qui sont infra-humaines. C'est-à-dire que normalement, pour un homme, de revenir sous l'une de ces formes est une forme de déchéance. Parce que la forme humaine est théoriquement, enfin non seulement théoriquement, mais en réalité, est quelque chose qui est plus noble, plus bénéfique, plus propice même à l'éveil que ces formes-là. Donc revenir dans l'une des quatre premières voies est jugé comme une forme, du moins pour un homme, hein, de déchéance. A l'inverse, revenir sous forme d'homme, voire sous forme de Dieu, est jugé comme quelque chose de bénéfique. Et on va voir que souvent dans le traitement qui est fait de ces six voies, il y a un peu l'idée, les quatre premières sont vues souvent un peu en bloc, et les deux dernières également en bloc. Par exemple, vous savez ce que nous récitons, par exemple, les dix insignes, Nyoseso, Nyosesho, etc. Souvent la manière dont c'est analysé, on fait en bloc pour les hommes et pour les dieux. On dit le Nyoseso des hommes, c'est ça, des hommes et des dieux, le Nyosesho, c'est ça, le Nyoseta, etc. Dans beaucoup de cas. Pas dans tous les cas, mais déjà dans les livres très anciens. Dès le 7e, 8e siècle en Chine, c'est le cas. Ce qui est important aussi de remarquer, c'est que quand même, si on voit cette conception ancienne de l'Inde, sur ce retour sans cesse à travers le samsara sous différentes formes de vie, on va bien voir que c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que l'adjonction de quatre mondes qui sont proprement bouddhiques va former le concept global des dix mondes. Alors, vous pouvez trouver comme traduction, j'ai vu 10 mondes, 10 domaines aussi, ça dépend des traducteurs, 10 plans également. Ça, c'est une traduction déjà plus ancienne, parce que c'est vrai que dans le temps, dans l'idée qu'on avait en Inde, c'était quelque chose d'assez étagé, en quelque sorte. Par contre, quand même, la traduction qui est faite parfois, enfin, on parlait tout à l'heure justement de certaines organisations nichirénistes, de 10 états, me paraît quand même très sujette à caution. En ce sens où un état, normalement, c'est l'état de quelque chose. Et parfois, comme s'expliquer par ces gens-là, il y a l'idée, enfin je ne vais pas me faire leur interprète, mais il y a quand même l'idée que ce sont des états de l'humeur, en fait, des états de la conscience. C'est-à-dire que je suis heureux, enfin je caricature, hein, je suis heureux, je suis dans le sixième monde, et je suis triste et je suis dans le monde de l'enfer, ou des choses du même ordre. La réalité telle que la voit le bouddhisme, c'est quand même vraiment des mondes importants. L'expression le monde, quand on dit par exemple Jikai, c'est-à-dire 10 mondes, en fait c'est une abréviation de Jipokai. Et donc un monde, Hokai, Fajie en chinois, c'est ça, donc c'est un. Bon, le truc n'est pas très propre, c'est un monde de dharma. Alors, qu'est-ce qui définit un monde, pour avoir une idée précise, si on prend le principe d'une pensée 3000, donc qui est un texte théorique de Nichiren qui a été fait au début de l'instauration de son bouddhisme, où il voulait poser les bases du système qu'il mettait, et en cela il reprenait ce qu'avaient fait les penseurs chinois du Tiantai. Un monde se définit comme étant la réunion de ce qu'on appelle les trois domaines, c'est-à-dire les cinq éléments, donc on pourrait dire qu'ils sont constitutifs de l'être, ça va de la forme jusqu'à la conscience, en passant par la perception, etc. Ça se définit par, donc ça c'est de l'être, je dirais, au singulier. Ça se définit par des êtres, c'est-à-dire que dès lors que j'existe dans un monde, par exemple, je pense que je vis dans le monde des hommes, enfin a priori, je ne suis pas le seul habitant du monde des hommes. J'ai des congénères. Il y a d'autres hommes que moi. Sans ça, ça ne formerait pas un monde. Il n'y a pas un monde qui, que vous prenez, je ne sais pas moi, les animaux, les asuras, les damnés qui sont dans l'enfer, les bouddhas, les bodhisattvas, enfin, quelques mondes que vous voudrez, il n'est pas constitué d'une personne unique. Les dieux non plus, il y a beaucoup de dieux, on va le voir. Et un territoire. Et donc, pour former un monde, il faut qu'il y ait ces trois choses à la fois. C'est-à-dire, il faut qu'il y ait, on pourrait dire, la structure du vivant, qui est les cinq éléments. Il faut qu'il y ait non seulement ce vivant-là, mais qu'il ait également des congénères, qu'il y ait d'autres vivants avec lui, et il faut qu'ils occupent une place. C'est-à-dire que, non pas qu'ils occupent une place, mais qu'ils aient un environnement. C'est-à-dire que leur environnement, pour eux-mêmes, leur semble porteur d'un certain nombre de caractéristiques. C'est-à-dire qu'en tant qu'habitant du monde des humains, pour moi, le monde des humains, ce que j'en vois d'un point de vue, je dirais, quand je regarde l'extérieur, il a un certain nombre de caractéristiques. Et si d'un coup, je me retrouvais projeté en enfer, eh bien l'enfer m'apparaîtrait avec des caractéristiques complètement différentes. Ces caractéristiques, c'est ce que nous appelons nyoseso, c'est-à-dire la nature de chaque monde. Chaque monde se décline à travers 10 ainsi. Vous voyez, le bouddhisme est un système de systèmes. Alors, l'expression sanscrite pour un monde, c'est donc qui correspond au Hokkai japonais ou au Fajie chinois, c'est Dharma Dhatu. Et Dharma, donc Dharma, ce sont les constituants du réel, dans le cadre de cette expression. Et Dhatu, c'est l'espace qui contient les constituants du réel. C'est-à-dire, alors c'est peut-être un peu abstrait, pour qu'il y ait un monde, il faut forcément qu'il y ait un environnement, et que cet environnement ait de l'espace pour être peuplé d'objets, d'êtres, etc. Donc, c'est pour ça que je dis que je ne peux pas, comme le font d'autres, assimiler ces mondes à simplement un état de l'humeur. Genre, je suis heureux, je suis triste, etc., etc. Parce que sans ça, le fait de voir le changement des 10 mondes, vu par le prisme réducteur de ceux qui pensent que c'est juste un état, ça voudrait simplement dire que mon humeur varie, mon humeur comme celle de tout le monde d'ailleurs. Hein. C'est-à-dire que je ne suis pas dans un mode d'humeur qui serait constant, c'est-à-dire que je ne suis pas toujours ou triste ou heureux ou souffrant ou enthousiaste ou quoi que ce soit, mais que je passe par différents états. Alors, c'est entièrement vrai, hein. Chacun de nous passe par différents états, mais le bouddhisme n'est pas venu pour nous donner ce genre de lapalissade, mais au contraire pour projeter une lumière qui est vraiment celle de l'éveil bouddhique sur notre environnement, du moins en l'occurrence. Donc, dans cette vue des 10 mondes, il y a donc ces 10 strates, on pourrait dire, et le système des 6 voies dont je parlais, donc avec les 4 premières et les 2 dernières, c'est-à-dire celle des hommes et celle des dieux, représente les 6 premiers mondes, quand ensuite ça a été fait. La notion de 10 mondes, si vous voulez, remonte au début de l'école Kentai, pour avoir une idée. C'est-à-dire que, évidemment, chacun de ce genre d'êtres existait bien avant l'école Kentai, du moins dans la domination qu'en donnait le bouddhisme. Je ne sais pas, moi, que ce soit le monde des auditeurs, par exemple, ou des hommes, etc. Tout ça existe déjà dans le bouddhisme indien. Par contre, ce n'est systématisé sous la forme de ces mondes qu'à partir du Kentai, qui, lui, le fait entrer dans un système beaucoup plus global et qui, finalement, va être le système qui analyse ce qu'est la pensée produite et de quelle manière, en quelque sorte, on peut l'appréhender à travers cette espèce de comptabilité dans laquelle les maîtres du Kentai est extrêmement fort, qui signifie que si on connaît quelque chose, on peut dire en combien de sous-secteurs, en quelque sorte, ça se répartit. C'est-à-dire que les gens qui disent bah, globalement c'est ça, mais on ne peut pas donner de détails, en fait, peut-être qu'ils ne connaissent pas très bien exactement ce dont ils parlent. Alors donc, nous avons les 4 premières qui sont jugées comme étant mauvaises, et qui sont d'ailleurs, hein, et les 2 dernières qui sont meilleures. Alors, je voudrais quand même juste à ce niveau-là peut-être faire une remarque, parce que elle sur notre place à nous, en tant qu'hommes, sur notre condition humaine, parce que nous sommes dans un... dans un système où au-dessus de nous il y a donc ce que le bouddhisme reconnaît comme des divinités, après on va voir plus concrètement de quoi il s'agit, et juste en dessous de nous il y a les asuras. Alors ces asuras, il faut quand même dire quelques mots à leur sujet. On peut dire que ce sont en quelque sorte des dieux déchus, des dieux bannis. Ils sont animés d'un esprit belliqueux, d'un esprit guerrier, ils ont des pouvoirs physiquement, etc., qui sont jugés comme étant supérieurs aux hommes, mais ils sont dans une recherche de la puissance et surtout du fait de vouloir se confronter aux dieux, qui font qu'ils ont été relégués dans des régions souterraines. Normalement, ils sont en dessous de nous. Ce sont des esprits inquiets, violents. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Mais ils sont toujours animés du désir de reprendre leur place parmi les dieux. Donc en fait, l'homme est quand même, pourvu de voisins un peu encombrants. Parce que entre ces asuras qui sont en dessous de nous et ces dieux qui sont au-dessus de nous, le bouddhisme pense qu'il y a donc les deux, et l'homme qui est entre les deux, qui est pris en sandwich entre les deux, il y a... mais une double aspiration chez l'homme, qui est l'aspiration qu'on pourrait dire d'un type asurique, hein, j'invente un néologisme, c'est-à-dire le fait de vouloir prendre la place des dieux, animé par un esprit conquérant et belliqueux, et l'aspiration vers le divin. Et c'est deux tendances qu'il y a chez l'homme. On peut dire, si vous voulez, c'est le type du guerrier, le type du moine, en fait, hein, si on voulait simplifier. Dans cette pensée ancienne de l'Inde, et on le trouve à travers la plupart des grands romans épiques, je pense au Ramayana ou au Mahabharata, des romans très très anciens, les asuras amènent le désordre, parce qu'ils pullulent. Il y a un moment donné où ils viennent peupler la terre, où donc la guerre triomphe sur terre, c'est-à-dire que des guerres éclosent un petit peu partout, et ils amènent un tel désordre sur terre, une telle pollution, que que la terre ne peut plus supporter cela. C'est un schéma que l'on voit dans pas mal de romans indiens, et donc la terre, qui est elle-même comme une sorte de divinité, mais d'un rang relativement bas, va demander le secours des dieux. Et donc, elle va demander le secours des dieux qui vont envoyer ce qu'on pourrait appeler des sortes de héros, c'est-à-dire d'hommes qui prendront place, mais qui seront des héros, par exemple Krishna, et qui vont faire qu'il va y avoir une guerre contre les Asuras. Les Asuras, en fait, se sont réincarnés sous forme d'humains dans ce genre de, d'épopée. Et ils font que la Terre est en guerre et que le désordre règne et que les choses sont mélangées. Et en général, ces guerres se terminent par une forme d'anéantissement général. Hein, c'est pas très gai. Et ensuite de quoi, il y a un nouveau départ. Et il y a un nouveau départ où le dharma est davantage respecté. Et en général, l'épopée s'arrête là. C'est une constante que l'on va voir, mais qui existe également par la suite, qu'on va retrouver dans la pensée bouddhique, qui, elle, va promouvoir différents d'autres types d'idéaux humains que ceux qu'il y avait dans l'Inde antique, c'est-à-dire qu'il faut contenir les forces asuriques, parce que justement, ce sont des forces. Ce sont des forces qui n'ont de cesse que de s'imposer et de mettre la société humaine en très mauvais état. Et ces forces sont portées par des hommes qui incarnent, ou ce sont des sortes d'asuras qui ont pris le contrôle de ces hommes, et donc ces hommes apportent la guerre. Ces hommes peuvent avoir une qualité charismatique ou quelque chose comme ça, et ça met la Terre en très mauvais état. Donc, nous sommes partagés, enfin si on peut dire, entre une sorte d'aspiration, on pourrait dire, qui vient du bas, c'est-à-dire qu'il y a des asuras, qui est, l'esprit héroïque, si on veut, ou quelque chose un peu comme ça, romantique d'une certaine manière, et l'aspiration vers le divin. On va voir que le bouddhisme, finalement, ne reconnaît ni l'une ni l'autre. Mais, pour le bouddhisme, les enseignements non-bouddhiques, c'est-à-dire essentiellement à l'époque où le bouddhisme s'est formé, c'était des enseignements, on pourrait dire, de type religieux ou de type yogique, se limitaient à finalement développer l'un ou l'autre. Et dans la société des castes de l'Inde qu'il y avait à l'époque, on ne peut pas dire qu'il y a un groupe ou un autre parmi les quatre castes de l'Inde, mais c'est vrai que souvent ce sont les kshatriyas, donc qui était la caste des guerriers, des guerriers gouvernants, et surtout de ceux qui peuvent porter le châtiment, chose que les brahmanes n'avaient absolument pas le droit de faire, c'est-à-dire apporter ce qu'on appellerait nous à l'heure actuelle la justice, qui pouvaient facilement incarner les kshatriyas et les asuras. Et qu'à l'inverse, c'était la caste haute, la caste sacerdotale des brahmanes, qui théoriquement aurait dû incarner l'aspiration vers le divin. On voit qu'on est là quand même dans cette espèce de... Là, on est au niveau, si vous voulez, des mythes les plus anciens des sociétés de langue indo-européenne, c'est-à-dire finalement des cultures dont nous-mêmes sommes issus à travers la Grèce, etc. Parce que ces mythes-là, on va les retrouver, dans la pensée antique de la Grèce. On est, je pense, quand même assez loin d'une certaine pensée religieuse beaucoup plus récente qu'il y a ici, qui est, l'homme peut aller vers ce qui est angélique ou ce qui est bestial, quelque part. Qui veut faire l'ange fait la bête, par exemple. Les enjeux, quand même, dans cette idée, semblent moins impressionnants, d'une certaine manière. C'est-à-dire que je veux faire l'ange pour me faire remarquer, pour avoir le premier prix d'élégance, et au pire des cas, ce qui peut m'arriver, c'est de simplement de montrer les pulsions très simples qu'il y a en moi, les différents appétits qu'il y a en moi, parce que c'est Tartuffe, quoi, quelque part. Et du coup, je serais ridicule. Mais la problématique que pose la pensée indienne est bien pire que ça, parce que là, on parle vraiment du monde qui est à feu et à sang. Ce n'est pas simplement le fait que dans une démarche personnelle, je me destine vers une sorte d'angélisme, entre guillemets, et que du coup, à l'inverse, je montrerai simplement que je suis un type très limité, et donc tout le monde rira une bonne fois. Là, on est dans le cadre de cette notion du fait d'être entouré, enfin d'avoir au-dessus de soi le monde divin et en dessous de soi le monde des asuras, fait que l'homme est toujours dans une forme de dilemme, et de dilemme qui le porte à, je sais pas comment dire, à intervenir vis-à-vis de la collectivité. Je pense qu'il faut toujours avoir à l'idée que ce que l'on appelle le dharma, c'est-à-dire la loi bouddhique, est un ordre qui est, je sais pas comment dire, éthico, socio-cosmique, hein, si on voulait dire, parce qu'il touche les trois domaines qu'on a vus précédemment, qui est le domaine constitutif de la personnalité, des autres avec qui on vit, et de l'environnement. Et donc, à ce niveau-là, un ordre au niveau de ce qui est constitutif de la personnalité, c'est-à-dire la manière dont le dharma se décline à ce niveau-là, c'est l'éthique, c'est la morale, dont ça au niveau des êtres, globalement, c'est de la collectivité, on pourrait dire, ce sont des choses qui sont d'ordre social, et au niveau de l'environnement, c'est ce qui est de l'ordre de, je ne sais pas, enfin de comprendre les lois de cet environnement, lois physiques, lois, etc. et tout. Donc, si vous voyez, le dharma est toujours les trois choses à la fois. C'est pour ça qu'on ne peut pas dire que c'est une sorte comme je dis par d'autres, de loi de l'univers ou de choses comme ça, parce que si je dis loi de l'univers, donc j'ai tendance à l'assimiler à des lois physiques ou une sorte de loi primordiale, mais c'est également une loi morale. Par exemple, on dit qu'il y a un svadharma pour chacun, c'est-à-dire un dharma du soi. C'est-à-dire que le dharma se décline également d'une manière qui est propre à chacun d'entre nous, que chacun de nous doit découvrir. Et en fait de quoi, chacun de nous doit sauvegarder ce dharma et développer ce dharma. Mais pour sauvegarder ce dharma, il va devoir en quelque sorte l'importer, le transplanter dans la société. Parce que le dharma ne reste jamais quelque chose qui est purement individuel. Donc, cette condition de l'homme est une condition dans laquelle il y a du conflit. Et dans laquelle le conflit doit être mené et doit être géré. Ce qui n'est pas toujours pratique, loin de là. Mais ça fait partie de la donne. En même temps, cette pression, qu'on pourrait appeler la pression asurique, donc cette pression, c'est-à-dire des asuras, cette pression belliqueuse, est quelque chose qu'il faut canaliser, qu'il faut empêcher, sans quoi on aboutit forcément à des destructions massives. Et le monde actuel, je veux dire, si on juge ce qui se passe, je veux dire, on est exactement dans ce genre de situation, je veux dire. Partout les grands, enfin je ne veux pas être dramatique, mais enfin quand même, partout les grands asuras ont pris les choses en main. Hein. Et les grandes asuras nous disent, ben, ça va être comme ça ne va pas être autrement. Parce que dans leur logique d'asura, c'est effectivement comme ça ne peut pas être autrement. Ils sont en lutte contre ce qui est divin. Et alors, on va voir un peu davantage ce que
Il
c'est.
disait que les asuras pouvaient prendre forme
Oui, oui, oui.
humaine, et Dieu, donc du coup, peut entrer au monde des hommes
Oui, oui,
et
oui.
donc agir
Oui,
à travers les hommes.
oui, oui.
Le
Oui.
monde des dieux n'est pas le sens.
Non. Parce que justement, c'est un peu on va voir pourquoi c'est le problème, c'est que chaque monde roule pour lui-même. Oui. Et par exemple, le bouddhisme dit bien qu'il y a finalement du monde des dieux, il y a très peu de choses qu'on connaît, parce que c'est quelque chose qui ne nous concerne même pas, et que la plupart des dieux, surtout des régions les plus élevées, mais ça passe absolument pas du tout à nous.
Donc là, on n'est pas pris entre deux feux, quoi, c'est ce que tu dis.
Non, c'est pas exactement ça. C'est que quand même, et ça c'est par dans la vue justement de cette mythologie bouddhique, les dieux également doivent protéger le dharma. Ils ont un rôle à ce niveau. Ils ne peuvent pas laisser que le monde soit dans un désordre complet.
Donc est-ce qu'ils interviennent à travers les hommes aussi?
Oui, alors on va voir de quelle manière. C'est-à-dire que les... Bon, c'est davantage développer les choses, mais théoriquement, c'est au travers de la pratique bouddhique que les hommes peuvent nourrir les forces divines. C'est-à-dire, c'est le sens de la... comment dirais-je, de la première prière que nous faisons le matin, donc où nous disions « Romi Baizo », pour que ça croisse le goût de la loi, le goût, la saveur de la loi. Et cette saveur de la loi, en fait, est quelque chose qui nourrit les dieux.
Donc, il n'y a que nous qui pouvons s'élever le plus près possible de ces dieux, et en aucun cas, les dieux, eux, peuvent intervenir
Alors,
ou à travers les hommes.
Alors, tout, en fait, ce qu'on va voir, c'est que tout intervient un peu dans tout. C'est un peu le problème, c'est que ces mondes ne sont pas hermétiques, loin de là. Et en même temps, le Bouddha, contrairement aux religions qui ont préexisté à son établissement en Inde, juge que la condition des dieux, d'une part, n'est pas la condition la plus sublime, loin de là, mais qu'également, il a pitié des dieux. Il pense que les dieux, d'une certaine manière, sont également enchaînés à la loi du karman. Dans le bouddhisme, mais également dans la pensée indienne antique, les dieux sont mortels, même si souvent leur vie est extrêmement longue, chacune de leurs journées vaut plusieurs de nos siècles, etc., et ils vivent je ne sais pas combien de milliers d'années et tout ça, mais la condition de Dieu n'est pas du tout la condition ultime, loin de là. Donc ça va nous amener à mieux définir ce que sont ces dieux, quelle est leur cosmographie, leur géographie, même s'ils ne sont plus sur Terre, et voir de quoi il s'agit. Alors, les dieux sont jugés comme étant les... d'ailleurs, une petite parenté, hein, quand on dit, nous, si vous voulez, on fait partie, au moins par la langue, et par notre pensée qui s'exprime au travers de notre langue, des situations indo-européennes. Je crois que la plus vieille langue qui soit connue dans ces civilisations, c'est le sanskrit. Et beaucoup de mots, effectivement, du français viennent, mettons, du latin ou du grec, mais viennent eux-mêmes des langues de l'Inde. Et par exemple, sur ce mot que j'emploie, ce mot de Dieu en français, son étymologie, dont on n'est absolument pas certain du tout, parce que ça, c'est quand même un petit peu reconstitué, mais enfin, elle est sanskrite. C'est-à-dire que à l'origine, c'est ou bien le terme sanskrit Deva, donc qui signifie les dieux. Alors Deva, même normalement, c'était les dieux masculins, vu que les déesses, c'est Devi. Ou alors, ça vient du terme Diu, qui peut également se prononcer Diaos, qui est le dieu du ciel, le ciel en tant que dieu. Et d'ailleurs, on voit bien que dans la plupart des religions qui s'y emploient ce terme de dieu, il a souvent les deux sens à la fois, c'est-à-dire à la fois le sens Deva et le sens Diu. Et d'ailleurs, on voit bien même la parenté, juste même à l'oreille, hein, de cela. C'est-à-dire que nous, on pense, et à travers justement le français, mettons par exemple, qui fait partie de ce groupe des langues indo-européennes. Et si vous voyez, dans le bouddhisme, c'est une chose qui est très importante, c'est qu'après le bouddhisme indien, enfin quand il a commencé d'aller vers l'extrême-orient jusqu'à rencontrer la civilisation chinoise, à un moment donné, vous avez une sorte d'association, qui à mon avis est assez merveilleuse, entre justement la pensée indienne, donc que j'ai qualifié ensuite d'indo-européenne, et la pensée chinoise. Et en fait, du cocktail entre ces deux choses, qui sont quand même très très différentes, fondamentalement différentes, est né ce que le bouddhisme tel que nous le connaissons, d'une certaine manière, et qui réunit deux des plus grands systèmes de pensée de l'humanité, du moins des systèmes qui ont duré, parce qu'il y a une autre qu'on connaît moins bien, ou qui appartient à des situations totalement disparues. Alors, les dieux indiens et leur mythologie ont été incorporés dans les représentations du bouddhisme. Alors, ils sont jugés comme étant les habitants des régions célestes, c'est-à-dire au-dessus de nous, encore que certains dieux inférieurs vivent sur Terre, près des sanctuaires, des choses comme ça, etc. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, ils sont mortels, mais leur longévité est immense. Le Bouddha révèle qu'ils sont soumis à la loi du karma. Toutefois, celles-ci sont moins agissantes sur eux que dans les mondes qui leur sont inférieurs. Par exemple, dans le principe d'une pensée 3000, Nichiren, qui cite un texte de l'Abhidharma, dit « Ces 12 liens causaux ne sont plus entièrement effectifs entre les existences successives, ni même dans le ciel, c'est-à-dire le monde des lieux, ni même dans le monde du sans-forme, qui est l'une des parties du ciel en question. » Alors, est-ce que vous voulez que l'on voit la géographie des dieux dans l'Inde antique ? Parce que c'est un bon morceau, hein, je vous préviens.
Oui,
oui,
c'est bon.
Oui, oui, le bon, vraiment le brahmanisme. Hein. Oui.
Je vais essayer de regarder un petit peu, c'est hyper complexe.
Oui. Oui, oui.
Il y a le créateur, il y a il serait parti en trois aspects.
Oui.
Alors lui, c'est Brahman qui est le créateur des mondes, et Brahman qui est le créateur de notre monde.
Oui. D'une certaine manière, bon, on va le voir. Alors là, on va le voir peut-être plus en détail et puis on va essayer de rendre les choses le plus clair possible. Alors, il y a dans l'idée que les Indiens de l'Inde antique ont du monde, en fait, ce monde se répartit en trois mondes. Alors les trois mondes en question sont le monde des désirs, le monde de la forme et le monde du sans-forme. D'accord ? C'est toujours le même caractère hein, en chinois qu'on emploie, c'est ce caractère-là qui signifie monde. Alors, le monde du désir, alors, c'est pour ça que c'est pas évident à comprendre, le monde du désir comprend les cinq première voie dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire l'enfer, les démons affamés, les animaux, les asuras et les hommes, plus une petite partie du monde des dieux. C'est-à-dire, cette petite partie, ce sont les six premiers ciels. Parce qu'en fait, ce monde des dieux comprend 28 cieux. Et les six premiers d'entre eux font partie du monde des désirs. Au sommet de ce monde du désir trône une divinité tout à fait redoutable, dont vous avez déjà entendu parler, on en a parlé même ici la fois dernière, qui s'appelle le roi démon du sixième ciel. Donc il est en haut du sixième ciel, et c'est lui qui fait le douanier entre entre le monde des désirs et le monde de la forme, ou des formes. Les habitants du monde des désirs, c'est-à-dire notamment nous-mêmes par exemple, mais également les animaux, également les dieux inférieurs jusqu'à ce roi démon, sont omnibulés par les désirs, et donc la structure, la forme ne leur apparaît pas. Ils ont des idées de ce que peut être la forme, mais ce qui est le plus essentiel dans ce qui est le ressort, c'est le désir. Alors, si vous voulez, donc, le problème, c'est qu'à l'intérieur, ça je vais effacer, à l'intérieur de ce monde du ciel, en fait, on va avoir la partie inférieure, parce que, et en fait, c'est dans ce monde divin que se passe le passage. La partie inférieure va être constituée par le monde des désirs, jusqu'au sixième ciel. Ensuite, vous allez avoir un certain nombre de cieux qui forment le monde de la forme, et on va revenir sur chacun de ces termes, et la partie supérieure qui forme le monde du sans-forme. Et tout ça à la fois, ce qui fait partie du monde des désirs est commun, on peut dire, avec les mondes inférieurs, notamment par exemple avec le monde des hommes, avec le monde des animaux, avec le monde des asuras, etc. C'est-à-dire que toute une partie de ce style d'existence qu'il y a en dessous culmine au sixième ciel, donc dans ce monde du désir. Et ensuite de quoi, on passe à autre chose, et ensuite on passe à encore autre chose. Mais tout ça se passe dans le monde des dieux. Et le bouddhisme sur les stades supérieurs, par exemple tel que le monde des auditeurs, le monde des éveillés pour soi, le monde des bodhisattvas, etc., forme ce qu'on appelle Shuseken en japonais, c'est-à-dire l'échappée hors du monde, hors des mondes, c'est-à-dire hors des trois mondes. Alors, on va voir un peu comment ça se passe pour ces régions inférieures du monde des dieux. Et en fait, vous allez voir que ce sont celles sur lesquelles nous avons le plus de détails, parce que plus on s'éloigne, plus on s'élève, et plus c'est loin de nous, et moins ça a de rapport avec notre existence. Et quand on va parler du monde du sans-forme, ben vous allez voir que je ne vous en dirai pas grand-chose, parce que là, le langage ne correspond plus à grand-chose. Hein. Le langage n'y arrive pas. Donc c'est quand même très très bizarre. C'est-à-dire que l'Inde antique a fixé une sorte de, je peux comment dire, de géographie du divin, et sachant qu'à partir d'un moment, ça culmine. C'est-à-dire qu'on ne peut plus en dire grand-chose, parce que nous, on est des hommes, et que le langage humain ne permet pas d'énoncer ce genre de choses, et que l'esprit humain ne permet pas de l'imaginer, etc., etc. Alors, on va parler donc essentiellement, finalement, vous allez voir que plus on va s'élever, et moins on pourra dire grand-chose, du moins si on se fie uniquement au texte. Alors, les choses commencent donc par un premier ciel, qui est constitutif du monde des désirs, et ce premier ciel est déjà totalement voisin de la terre, parce que il représente les pentes de ce qu'on appelle le mont Sumeru, qui est la montagne centrale, qui est entourée dans les quatre directions cardinales à chaque fois d'un continent, et cette montagne centrale du monde, à son sommet, il y a un dieu qui s'appelle Indra, dans la religion indienne, que les Chinois appellent Dishe et les Japonais Taishaku, et ce dieu, en quelque sorte, est le dieu qui règne sur un peu ce qu'on peut connaître du monde. Donc cette montagne est entourée par quatre continents, et elle a quatre faces, en quelque sorte. Et sur chacune, ces faces, enfin du moins je suppose à une certaine hauteur, sont considérées déjà comme étant le premier ciel. Donc là, on est au voisinage de la Terre, hein, d'une certaine manière. Hein. Donc imaginez une montagne avec, à mi-hauteur, mettons, on prend chacun des points cardinaux, et vous avez, si on met à plat, en quelque sorte, un ciel. Et dans ce ciel vit ce qu'on appelle un grand roi du ciel. Donc il y en a quatre, ils sont quatre coins du Gonzon. En fait, tout ce dont on va parler, c'est le détail un peu de ce qui se passe sur le Gonzon. Les Asuras dont j'ai parlé tout à l'heure, ils y sont. On va voir que toutes ces choses-là sont complètement dans cette représentation qui apparaît sur le Gonzon. Et donc, aux quatre coins du Gonzon, est écrit en caractère assez grand, donc vous avez le nom de chacun de ces quatre grands rois du ciel, qui sont chacun à la tête de l'une des directions célestes. Alors, ces quatre grands rois du ciel sont les protecteurs de la loi bouddhique. Ils ont un rôle qui est important parce que, si vous voulez, même s'ils sont au premier niveau du ciel, c'est le premier type de divinité, enfin, c'est quand même des rois du ciel, donc c'est quand même pas des n'importe quoi, mais ils sont importants en ce sens où eux, vu qu'ils sont une région charnière, s'occupent de notre monde. Par exemple, dans le 26e chapitre du Sutra du Lotus, il y a un certain nombre de personnages, les bodhisattvas, et ensuite deux de ces quatre rois du ciel qui font le serment de protéger le pratiquant du Sutra du Lotus et qui donnent à chaque fois une formule en ce sens, une formule détentrice en ce sens. Et donc, si vous voulez, ce ne sont pas des divinités spécialement haute, on parlait par exemple de Brahma ou de Indra qui est au-dessus d'eux, mais ce sont des personnes qui sont plutôt proches de nous dans cette représentation. Ils ont quand même ce genre de personnages qui sont sur des zones frontières, des zones charnières, sont toujours importants dans le bouddhisme, parce que c'est les lieux de passage. c'est les lieux où il se passe, quelque chose, où il y a une transmutation qui peut être faite. Et donc, ces quatre grands rois du ciel dépendent eux-mêmes de la personne qui est, enfin la personne du Dieu, qui est au deuxième ciel, c'est-à-dire qui est juste au-dessus d'eux, et qui lui est au sommet du mont, il a sa ville qui est située tout à fait au sommet de ce mont, et qui s'appelle Indra. Alors je vais vous passer les détails qui font, parce que c'est assez mathématique, mais enfin c'est pas très difficile à comprendre, vous pouvez le voir sur le site, que ce ciel qu'habite Indra s'appelle les 33 cieux. Alors là c'est vraiment, c'était géométrique, hein, vous verrez, bon, il faut voir la chose en trois dimensions. C'est important parce qu'il y a un certain symbolisme qui est derrière. Alors, après, vous avez un nombre de cieux, vous avez encore quatre autres cieux dans ce monde des désirs, et tout à fait en haut, vous avez le sixième ciel, donc qui est celui au sommet duquel trône le roi des mondes du sixième ciel, dont on a parlé tout à l'heure, et dont on a également parlé à d'autres reprises. Alors, au-dessus du monde des désirs, comme je l'ai fait ici, donc vous avez le monde de la forme. Alors, ce monde de la forme comprend, lui, 18 cieux, mais c'est très rare que l'on en fasse l'inventaire, enfin vous pouvez trouver dans certains bons dictionnaires bouddhiques, parce que, en fait, essentiellement, il comprend 4 degrés. Et les 18 cieux, si vous voulez, sont des sous-catégories de ces 4 degrés principaux. Ces 4 degrés correspondent à 4 formes de recueillement qui, à chaque fois, font que on s'éloigne. Là, on s'est éloigné au niveau du premier ciel, déjà, il n'y a plus de désir. Mais au fur et à mesure, même à l'intérieur de ces quatre choses, on va s'éloigner de la forme, c'est-à-dire on va s'éloigner de l'apparence et de ce qu'on pourrait appeler la matérialité. Alors, le premier ciel, enfin, c'est pas le premier ciel, c'est le premier de ces quatre degrés, est ce qu'on appelle le Brahma Loka, dont on parlait un petit peu tout à l'heure, c'est-à-dire le monde de Brahma. Alors, ce Brahma, qui est souvent considéré comme une sorte, comme la divinité la plus haute du panthéon brahmaniste, hein, d'où le nom d'ailleurs. Alors, c'est en partie vrai et en partie pas vrai. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que on estime que ce premier recueillement auquel est arrivé ce dieu qui s'appelle Brahma, ce premier recueillement, donc, ou méditation, ou je sais pas, ou disposition d'esprit qui est le sien et dans lequel il vit, donc là vous avez des gens, enfin des gens si on peut dire, qui vivent dans une sorte d'état d'esprit constant, est vraiment pour les hommes ce que l'on peut imaginer de plus haut. Donc du coup, Brahma, c'est-à-dire que nous, il y a un problème de perspective en quelque sorte. Théoriquement, donc dans cette vue de l'Inde antique, on ne peut pas aller, pour ceux qui sont en dessous, au-delà de ce que représente Brahma. Et donc, on dit que c'est ce qui est le plus haut. Mais c'est de notre point de vue à nous, ce n'est pas de son point de vue à lui, ni même des divinités qui sont au-dessus. Donc vous voyez qu'on est vraiment dans un truc cosmique assez bizarre, hein, qui est étonnant, je veux dire. Dans le monde biblique, vous n'avez pas une telle chose. C'est-à-dire de donner une sorte de Dieu comme étant le Dieu suprême, mais en disant, mais c'est parce qu'on ne peut pas aller au-delà, mais il y en a forcément d'autres au-delà. Et alors du coup, en général, on le considère comme créateur. Alors on le considère comme créateur, non pas qu'il soit créateur ou quoi que ce soit, mais parce qu'on lui donne un certain nombre de qualificatifs qui pour nous, ou du moins pour les gens qui ont fait ce genre de religion, sont vraiment le maximum du maximum. C'est-à-dire qu'on ne peut rien imaginer qu'il soit supérieur à ce Dieu, on pourrait dire même le Dieu biblique, on pourrait le voir un peu comme ça, si vous voulez. Donc, vu qu'on ne peut rien imaginer de supérieur à Dieu, donc il est tout, donc il est créateur. Alors, il paraît que le nommé Brahma en question le dit également, mais pas forcément privé, en quelque sorte, enfin, pas du moins, pas forcément vis-à-vis d'autres dieux, mais vis-à-vis d'êtres inférieurs, c'est ce qu'il dit. Donc là, on arrive à une sorte de, je sais pas comment dire, de stratosphère. C'est-à-dire que là, on est vraiment au plus loin de ce qu'on peut imaginer, et malheureusement, en quelque sorte, on n'est pas monté très haut, hein. Parce que ce premier recueillement, donc, se situe ici, il va y en avoir 1, 2, 3, 4 autres, d'accord, et le quatrième est celui qui fait passage avec le monde du sans-forme, et ce premier, le Brahmaloka, donc ce premier monde de Brahma, comprend 3 cieux, parmi les 18 que comprend le monde de la forme. Et, en fait, dans la plupart des textes, ou quoi que ce soit, vous trouverez pratiquement pas de mention des personnages, alors on va voir qu'ils sont même de moins en moins des personnages, parce que plus on va monter, moins il y aura grand-chose, hein, qu'il y a au-dessus. Même à certains moments, les autres, on les connaît que par le nom, parce que déjà, Brahma, c'est là où culmine, en quelque sorte, l'ensemble des religions, je veux dire, tout ce que l'on peut dire, même que les plus grands mystiques ont dit ou quoi que ce soit, ça s'arrête à ce niveau-là. Et on va voir comment le Bouddha, lui, prend complètement le contre-pied de tout ça, pour intégrer ces dieux finalement dans un système où eux-mêmes sont asservis à un certain nombre de choses. Mais, c'est-à-dire, ils ne se placent plus du point de vue purement humain qui regarde vers le haut, mais uniquement du point de vue de comment se libérer de la loi du karma qui, à laquelle les dieux sont également soumis, même si c'est d'une manière moins forte, d'après les textes, elle est moins efficace en quelque sorte sur eux que sur les hommes. Alors, les autres personnes qui vivent dans ce monde de Brahma sont également appelées Brahmanes et sont entièrement libérées de l'emprise des désirs. Ce monde donc touche aux limites de capacité de représentation qui sont les nôtres. Du coup, sa plus haute divinité est erronément considérée comme créatrice du monde. Conséquence également de cet éloignement de la représentation, nous avons extrêmement peu de notions pour évoquer les classes des dieux suivantes. Il s'agit des dieux à éclat, qui dégagent de la clarté, les Abhadeva, les dieux du bien-être, Subhadeva, et enfin, des dieux, alors là il n'y a même plus de mots, qui sont plongés, enfin ça dépend des textes, hein, certains textes qui sont également déterminés, mais qui sont plongés dans le quatrième recueillement. Donc vous voyez, c'est quand même une drôle d'affaire, hein. Là, en fait, on ne peut plus en dire grand-chose. Et je crois que, quelque part, au niveau des gens qui... des mystiques, des prêtres, etc., qui ont créé ce genre de religion, je crois qu'il y a une part d'honnêteté qui me semble assez sympathique. C'est-à-dire, dans le fait de dire que là, on peut éventuellement les nommer, mais on ne peut même plus rien dire. Alors c'est sûr que ça nous laisse sur notre faim, mais en même temps je pense que c'est quand même un bon message, c'est-à-dire que le langage et les expériences psychiques qui peuvent être les nôtres ont leurs limites. Ça c'est terrible, hein, d'accepter ça, mais c'est parce que nous on voudrait que le langage soit sans fin en quelque sorte. Mais le langage a également ses limites conceptuelles quelque part dans l'esprit. Et la pensée à l'aide de mots a également ses limites. Même si c'est un instrument qui est formidable, mais il a également ses caractéristiques et ses limites. Alors, au plus haut degré, donc ici, on arrive à la région également qui est charnière entre ce quatrième recueillement, entre le monde de la forme et du sans-forme. Quand on arrive donc au monde du sans-forme, alors là, rien ne va plus. Alors déjà, on continue à appeler un monde, on continue à parler des constitués d'un certain nombre de cieux, mais en même temps, on sait que l'appeler comme ça, c'est en grande partie erroné, en ce sens où ce monde, là on est effectivement dans ce qu'il n'a plus de forme, parce que le bouddhisme ne parle jamais de matière, il parle toujours de force et d'énergie, mais pas de matière. La matière, on dit, bon, c'est le concept comme nous on interprète ça, mais le bouddhisme voit de la forme qui apparaît c'est-à-dire sous différentes formes, et de l'énergie. Et alors quand on arrive au monde du sans-forme, et bien là, les cartes sont biaisées, il n'y a plus de forme. Donc c'est pour ça que ça s'appelle d'ailleurs le monde du sans-forme. Donc là, il n'y a plus, ce n'est plus localisable. Alors qu'avant, même si c'est une géographie qui est symbolique et qui est imaginaire, on vous localisait ça sur le mont Sumeru, chacune des quatre pentes du mont, ensuite le sommet du mont, ensuite on va encore plus haut. Mais alors là, on a gagné la stratosphère d'un coup. Et alors là, il n'y a plus que, donc là également, il y a quatre paliers, et qui sont plus définis que comme étant des états psychiques, de purs états psychiques. C'est-à-dire que les êtres qui n'ont pas de forme, qui vivent là-dedans, enfin vivent, je ne sais pas si c'est le terme, mais ne sont plus qu'une forme de recueillement continuel, qui dure pendant un temps extrêmement haut. Donc là, on est beaucoup plus haut que les dieux bibliques, que le dieu biblique ou que les dieux de la classe ancienne, une chose comme ça. Là, quelque chose qui est un pur état psychique. Mais sans qu'il y ait de psychisme, c'est le seul problème. Et alors, du coup, on ne peut plus le définir avec les mots. Et vu qu'on a que les mots, donc du coup, on le définit par des négations. On dit que c'est pas ceci, que c'est pas cela. Alors, le premier, alors c'est quand même assez extravagant, hein, comme histoire, hein. Le premier de ces quatre cieux donc, qui constituent le sans-forme, c'est l'infinitude de l'espace. C'est-à-dire qu'il y a un temps d'état psychique qui représente que le fait que l'espace, s'étende. Le deuxième, c'est l'infinitude de la connaissance. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure, et cet espace s'étend, et avec cet accroissement de l'espace, il y a accroissement d'une connaissance qui se fait d'elle-même. Là, il n'y a plus tellement d'actes, hein, à ce niveau-là. Oui, c'est vraiment, c'est l'infinitude. Alors, attention, parce qu'on en parle avec nos mots. C'est le... Mais de toute façon, c'est des choses qui nous dépassent complètement. Donc, la seule chose qu'on puisse en avoir, c'est de vagues représentations et qui, quelque part, sont forcément caricaturales. Mais c'est vraiment une conception qui est assez étrange. Le troisième niveau, c'est le néant. C'est-à-dire que là, il n'y a même plus ni infinitude de l'espace, ni infinitude de la connaissance. Il y a une sorte de néant pur qui vit sur lui-même. Et pour le quatrième niveau du monde de la sans-forme, là, il n'y a même plus de nom. Et on dit que c'est un domaine qui est dépourvu à la fois de notions et d'absence de notions. C'est pour ça, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, que réduire ça à de la pensée, qui aurait produit des hommes qui ont été terrorisés parce qu'ils ont vu un coup de tonnerre dans le ciel ou un truc comme ça, à mon avis, faut mal connaître pour dire ça. C'est-à-dire qu'on a affaire là à une pensée qui est extrêmement élaborée, qui s'est faite au fil sans doute de très très longues périodes de temps, à travers des controverses importantes entre des gens, sans doute d'une sagesse et d'une expérience intellectuelle, mystique et autres tout à fait surprenantes. Et... on ne peut pas en quelque sorte prendre tout ça en gros maintenant et en faire un petit truc et dire, parce que en fait, le but quand même de ces civilisations indiennes et de ces conceptions, c'est de donner une sorte de représentation totale du monde, même si ça ne correspond pas au monde tel qu'on l'imagine nous, mais c'était quand même une représentation globale, au même titre que... les meilleures représentations qu'on puisse avoir aujourd'hui, c'est également une représentation globale, c'est-à-dire qui inclut nos sciences, qui inclut notre littérature, qui inclut tous les savoirs divers que nous avons. Et là, en fait, nous avons également quelque chose qui inclut sans doute ce qui a pu être élaboré à travers beaucoup de générations et à travers vraiment une pensée, même si qu'on la partage ou pas, c'est encore un autre problème, mais d'une grande sagesse, quoi. Alors je vous ai dit l'imprécision grandissante de cette suite de termes pour évoquer dans notre langage ces états psychiques qui sont totalement éloignés de notre condition d'homme et donc du monde des désirs où nous vivons. Alors voilà, ça c'est un premier aperçu en quelque sorte de la pensée indienne telle qu'elle a été reprise dans le bouddhisme. Oui.
Justement, ça c'était vraiment la pensée indienne, elle n'est pas encore
oui.
De la Chine.
Non, mais c'est déjà la pensée indienne telle qu'on la trouve dans le bouddhisme. Mm-hmm. Parce que la pensée... enfin bon, là ça dépend des... comment dirais-je... des écoles de pensée de l'Inde. On dit par exemple en Inde qu'il y a 8 grandes écoles de la pensée, et donc toutes ne seraient pas entièrement d'accord avec ça. Le schéma de base est le même, hein, c'est-à-dire le fait qu'il y ait trois mondes, des désirs, de la forme, du sans-forme, etc. Ça c'est le schéma de base qui est globalement qui est vrai chez tout le monde. Mais après, la description des différents cieux, un peu telle que j'ai essayé de la faire ou quoi que ce soit, ça c'est dans le bouddhisme. Dans d'autres systèmes, on trouve des choses très très voisines ou très proches, hein, et dans d'autres des choses quand même plus éloignées. Mais donc ça, c'est tel que ça a été repris, bon, parce que c'est un peu ce qui nous intéresse, nous, ici, quoi, mais c'est tel que ça a été, le bouddhisme a...
repris par qui, par exemple?
Alors, repris par qui, c'est assez difficile à dire, parce que quand même, quand on regarde, dans les premiers écrits bouddhistes, ce qu'on appelle, enfin, ce qu'on peut dater à peu près... qui se passe directement après la mort du Bouddha, c'est environ 5 siècles avant Jésus-Christ, ce qui a produit la littérature de ce qu'on appelle maintenant le petit vécu, enfin, des choses très connues comme le Dharmapada, par exemple, ou des choses comme ça. Les dieux n'ont pas encore beaucoup de présence. Ils sont un peu là parfois, mais ils n'ont pas de présence. C'est-à-dire qu'on a l'impression que dans ce premier temps du bouddhisme, le bouddhisme se présente, alors c'est surtout le bouddhisme des quatre vérités, des 12 liens causaux, enfin, toutes choses qu'on a vues, des trois domaines, une chose comme ça, enfin, se présente davantage comme plus un système pour traiter de la souffrance, bon, chose que le bouddhisme n'a pas cessé d'être ensuite, mais avec pas énormément d'explications du monde. Et puis après, il y a eu un mouvement réflexif de connaissance du monde, et où là, on a repris pas mal de choses de la pensée indienne, et puis ensuite, il y a eu un mouvement, je dirais, philosophique, etc. Alors, si vous voulez, nous, cette idée des six voies de la transmigration, donc ça, ça existe dans la pensée indienne antique, finalement, on retrouve ça bien longtemps après dans le... aux origines du bouddhisme chinois du lotus, par exemple dans le courant du Tiantai, avec adjonction d'autres choses qui vont former, par exemple, la notion des 10 mondes, telle que nous la connaissons. Que dire, ces choses, en quelque sorte, par exemple, pour former les 10 mondes, finalement, c'est un réagencement, c'est pas une création ex nihilo, hein, parce que les mondes des bodhisattvas, des bouddhas, etc., déjà dans la littérature de l'Abhidharma, en fait, tout ça, ça existait, mais ce n'était pas présenté en tant que système. Mais déjà, toutes ces catégories d'êtres étaient parfaitement définies. Donc, en fait, l'un des coups de génie des créateurs de la doctrine Tiantai, et particulièrement de Zhe-Yi, a été cette espèce d'un coup de conscience globale de l'enseignement bouddhique, qui était devenu quand même très foisonnant, et d'être capable de le recracher sous une forme terriblement systématisée. Et donc que l'on peut apprendre, que l'on peut pousser plus loin, etc. Bon, ça c'était l'un des grands coups de la pensée Tiantai. Et alors je ne sais pas si c'est un peu clair, un peu éclairant ou pas, jusqu'à maintenant. Parce que, alors, je ne sais pas l'heure qu'il est non plus, mais on va aborder tout, on a encore un peu de temps. On va aborder d'autres choses, toujours vis-à-vis de ces dieux, parce que ce serait quand même bien d'arriver, bon là, on a campé un peu le paysage, on a montré ce qu'il était dans la pensée indienne. Alors, je vous parlais des dieux tels qu'ils apparaissent dans le Sutra du Lotus. Alors, dans le Sutra du Lotus, comme dans le reste du bouddhisme, c'est... contrairement aux grandes épopées indiennes, ces dieux n'ont pas toujours, loin de là, un rôle très actif. On a l'impression que pour que la loi soit enseignée, se réunisse, il faut qu'il y ait à la fois des hommes et des dieux, donc on met des hommes et puis on met des dieux. Hein, comme on l'a vu avec Sylvie il y a deux fois de là, dans le chapitre des maîtres de la loi, on dit ben, n'importe où un maître de la loi enseignera, ben, on lui fera un auditoire dans lequel il y aura des hommes, des dieux, même parfois différentes sortes de bêtes ou de créatures un peu fantastiques. Et puis le Bouddha dit bah, même, bah, s'il n'y a personne, moi je leur verrai des choses qui seront que les apparences de ça, et donc il aura un auditoire sur mesure. Enfin bon, je dis ça de manière un peu drôle, mais parce que ça fait également toutes sortes de significations par ailleurs. Pourtant, ils interviennent quand même d'une manière active dans le chapitre 26, le chapitre des Dharani, le chapitre des formules détentrices, où nous avons deux des quatre grands rois célestes, c'est-à-dire le roi céleste grand écoute et gardien du pays, qui donnent chacun une formule protectrice. Alors, ça amène un certain nombre de réflexions, si vous voulez. Le chapitre 26 donc, fait partie de la deuxième moitié du lotus, c'est-à-dire de la partie de l'enseignement originel. Mais beaucoup, alors moi je ne sais pas si c'est vrai, mais ça me semble peut-être probable, pense que en fait que la partie dans l'enseignement originel du lotus, donc qui commence au chapitre 15, ce sont surtout les 8 premiers chapitres, c'est-à-dire jusqu'au chapitre de la passation, c'est-à-dire où le Bouddha donne le sutra du lotus, chapitre très court en disant ben, faites qu'il ne soit jamais, faites qu'il ne s'éteigne jamais, quoi, et propagez-le largement, etc. Et on pense souvent que les chapitres qui viennent après ont été chapitres rajoutés souvent pour faire quelque chose de plus conséquent. Et surtout parce que ces chapitres qui viennent après sont souvent des chapitres qui devaient fonctionner à la base comme des petits sutras indépendants. Mais ils étaient complètement dans une perspective et dans un état d'esprit lotusien. Et donc, on voit que, d'ailleurs, je crois qu'il y a très peu de sutras, bon déjà qui sont aussi gros que le sutra lotus tel qu'il apparaît aujourd'hui, parce qu'il y a quand même beaucoup de sutras mayanistes qui sont en 10 pages, hein, et il y en a quand même quelques-uns, mais surtout qu'il se soit, avec d'autres choses, qui soient agglomérées au fil du temps pour constituer ce sutra. Et à tel point que d'ailleurs, on a rajouté même après, alors, les choses ne sont pas tranchées, hein. Certains pensent qu'effectivement que les huit derniers chapitres du sutra ont les cinq derniers chapitres du sutra donc ont été rajoutés et qui fonctionnaient à la base un peu comme des sutras indépendants. Et alors toujours, alors, c'est peut-être vrai, c'est peut-être pas vrai, je ne sais pas, hein, mais ça semble, vu le scénario global, ça semble très probable. Et par contre, on a rajouté après même un sutra. En général, dans beaucoup d'éditions qu'on passe avant le sutra du lotus, qui est le sutra des sens infinis, et le sutra de la méthode de contemplation de sage universel, qu'on a rajouté l'un avant et l'autre après le sutra du lotus. Et maintenant, quand vous l'achetez, enfin la plupart des éditions, même en français, dans les bonnes éditions qui existent le sutra du lotus, ou en chinois ou en japonais, vous avez, dans presque tous les cas, ces deux sutras qui viennent avec, pour former un truc bon, qui commence déjà à être, qui est imposant déjà par la taille pour un sutra bouddhique. Et donc, alors, je vous disais ça pour. C'est vrai que ce chapitre, d'ailleurs, à une réunion précédente que nous avions ici, Daniel s'était un petit peu étonné du contenu de ce chapitre, et c'est vrai qu'il apparaît quand même dans avec des choses dedans qui sont originales. Je dirais vis-à-vis du reste, notamment toute cette affaire avec les formules détentrices, vis-à-vis du reste du sutra. Et donc, il est possible, hein, ou pas, que ce soit une adjonction supplémentaire. Mais de toute façon, qui est tellement dans l'esprit du sutra, parce que le but, c'est de voir, je veux dire, dans le bouddhisme, ce qui est toujours important, et d'ailleurs Nichiren a beaucoup écrit là-dessus, c'est la signification des choses. C'est pas le fait de dire qu'à la base, le sutra lotus, tout pur, il comprenait que 3 pages, ou je sais pas combien de pages, ou quoi que ce soit. Et donc, le bouddhisme n'est pas en train de tailler pour séparer la pureté de l'impureté, mais de voir en fait quelle est la signification des choses, et qu'est-ce qui va dans le même sens, et qu'est-ce qui n'y va pas. Et alors c'est vrai que tous ces chapitres à la fois constituent le sutra lotus tel que nous connaissons aujourd'hui, et ils apportent également un éclairage sur différentes parties du sutra lotus, même sans doute dans beaucoup de cas ultérieurs, à une sorte de rédaction initiale, mais qui est tout à fait intéressante. Alors donc, les deux rois du ciel, la grande écoute et gardien du pays, qui interviennent dans cette affaire et donc qui donnent une formule pour protéger les croyants et les maîtres de la loi du Lotus, donc comme on l'a vu tout à l'heure, étaient parmi les quatre divinités qui sont vraiment au premier ciel du monde de cette partie céleste, on pourrait dire du monde des désirs. Et c'est normal parce qu'ils sont parmi ceux qui sont concernés par ce qui se passe encore dans notre monde. C'est sûr que quand on arrivait tout à fait en haut, dans des notions telles que le néant ou quelque chose qui est sans notion et sans absence de notion, bon ben là c'est plutôt concerné par ce qui se passe ici, hein, c'est pas de problème. Et donc ils sont représentés dans la plupart des temples. D'ailleurs, il y a de très très belles statues qui existent, vous les verrez, donc ils sont représentés souvent avec une allure assez martiale, souvent en armure et avec différentes armes, et donc ils ont un rôle, eux, actif. Ce qui est important aussi de voir, c'est au niveau de ces divinités qui apparaissent dans Stratiotus, notamment dans ce chapitre des formules détentrices, après les grandes écoutes et gardiens du pays, donc qui sont ces deux rois célestes, ces deux grands rois célestes, vous avez des êtres quand même qui figurent également sur le Gondwon, qui sont vraiment de régions tout à fait inférieures, et même qui sont, on pourrait dire, de régions infra-humaines, qui sont les Dizogrèves et leur mère, la mère déesse des enfants démons. Alors bon, à ces personnages, bon là je ne vais pas en parler maintenant, mais je vous enverrai volontiers sur le site, il y a quand même un ensemble de symboles extrêmement éclairants sur ces personnages, sur le culte qui a été le leur, et c'est tout à fait passionnant. Alors, bon, c'est peut-être un petit peu vite, mais il faut quand même qu'on puisse balayer les choses, parce que vous voyez qu'il nous attend quand même des drôles d'affaires. Les apports chinois. Alors, je n'ai pas beaucoup pioché la chose, donc je ne vais pas m'étendre. Mais déjà, comme on le fait souvent ici, donc pour traduire ce terme Deva, donc qui signifie les dieux, les divinités, les Chinois, on traduit de différentes manières, mais celle qu'on retrouve le plus souvent, alors qui figure vraiment à de nombreux endroits du Gondwon, parce qu'ils servent à chaque fois où on désigne une divinité, c'est le terme Tien en chinois, donc que nous disons Ten en japonais, donc qui est ce terme-là. Je ne montre quasiment pas Jean-Pierre, parce que lui connaît ce genre de choses. Alors, j'ai regardé un peu dans les dictionnaires étymologiques qu'était l'origine de ce terme. Alors, à l'origine, parce que donc vous savez que le chinois, enfin du moins les termes fondamentaux du chinois, ce qu'on appelle les clés ou certains caractères qui sont souvent assez simples au niveau du graphisme, viennent de ce qu'on appelle des pictogrammes, c'est-à-dire des représentations visuelles ou symboliques de choses. Alors, à l'origine, alors je dessine pas très bien, ça se présentait comme ça. Ça a évolué comme ceci, comme cela, et pour donner le caractère actuel. Alors quand je dis actuel, c'est le caractère qu'on utilise encore aujourd'hui en Chine ou au Japon, mais c'est également le caractère qu'on utilisait il y a 3000 ans, hein, et qui veut dire la même chose. Donc on a affaire à une langue qui a une sorte de permanence des significations à travers des périodes très très longues. Alors le caractère se divise en deux, qui est la partie inférieure, donc j'ai masqué la partie supérieure, et la partie supérieure, et qui ont évolué chacune comme ça. Alors, la partie inférieure, on l'a déjà vu souvent, c'est ce caractère qui existe encore de nos jours à la fois en chinois et en japonais. Ta, dai en japonais, donc qui signifie grand. D'accord? Le caractère, alors ça signifie maintenant grand. À l'époque, ça avait un sens un petit peu différent, et d'ailleurs qu'on voit bien ici, qui désigne un homme de grande taille, c'est-à-dire un adulte, un homme fort, un homme adulte. D'accord? Et au-dessus de cet homme adulte, on a mis une sorte de représentation qui par la suite s'est, transformée en un point, et puis après en un trait, parce que donc on est dans une écriture qui est faite pour écrire rapidement également. Et donc, ça désigne ce qui est au-dessus de l'homme. Au-dessus de l'homme, même grand, même adulte, il y a quelque chose. Il y a une puissance, on pourrait dire, il y a une ou des puissances supérieures. Et donc, ce caractère signifie également, maintenant, même encore en chinois contemporain, le ciel. Et donc, il est cette présence qui est au-dessus de l'homme, même grand. Et on va voir que ce sens, quand tout à l'heure on verra les divinités, enfin certains aperçus des divinités, par exemple Shinichiren, va se rajouter finalement au sens indien qu'on a vu tout à l'heure. Et que on va voir que donc dans le bouddhisme, on va avoir cette espèce de cocktail dont j'ai parlé précédemment, qui est le cocktail entre la pensée chinoise et la pensée indienne. Et donc c'est quand... Et toutes les choses qui sont importantes dans le bouddhisme, vous avez ces deux apports à la fois. Même si vous voyez par exemple l'invocation du titre, Namu Myoho Renge Kyo, Namu, c'est de l'indien, c'est du sanskrit, et Myoho Renge Kyo, c'est du chinois. Toutes les choses qui sont importantes dans notre bouddhisme, enfin je suppose, j'ai pas fait ça de manière exhaustive, mais vous trouvez un mélange des deux à la fois. Même le nom, par exemple, de Nichiren, les deux caractères qui constituent. Même au niveau du Gonzon, vous avez des choses qui sont écrites en chinois et deux choses qui sont écrites dans quelque chose qui serait un dérivé du sanskrit qui s'appelle le Siddham. Donc toutes les choses très importantes, il y a toujours... L'étincelle se produit, si on peut dire, lorsque vous avez ces deux choses qui se... ces deux pensées qui sont très très différentes. Et je crois que nous, on est issus, par notre langage, par ça, de ce qui est beaucoup plus proche de la pensée indienne que de la pensée chinoise. Parce qu'on utilise une langue qui est de la même famille que le sanskrit. Je pense que c'est l'une des principales raisons. Parce qu'une grande partie des mythes que nous connaissons, enfin je pense surtout au niveau de la Grèce ancienne, plus que des mythes bibliques, sont des choses qui ont une parenté, à mon avis, certaine, avec les mythes de l'Inde. Donc on est constitué de ce genre de choses. Et donc, à l'inverse, par exemple, les Japonais, la manière dont ils conçoivent le bouddhisme, eux, ils sont complètement du côté chinois. Et ils ont beaucoup perdu de vue tout l'aspect, ce que j'appellerais indo-européen, enfin indien dans le cas du bouddhisme, plus qu'européen. Donc, l'étymologie du caractère chinois nous montre, et ça va être quand même quelque chose qui est fondamental pour comprendre la notion de divinité Shinichiren, les forces qui sont au-delà des forces humaines. Dans la pensée indienne, on avait ça aussi, d'une certaine manière. Bon, effectivement, les dieux ont plus de pouvoir que les hommes, mais par exemple, on avait parlé tout à l'heure, de cette lutte perpétuelle entre les Asuras, les titans et les dieux, et puis évidemment les hommes qui sont au milieu. Et c'est quand, à un moment donné, les forces humaines, c'est-à-dire telles que, par exemple, des bons rois, qui est l'idéal bouddhique de l'homme, hein, c'est le bon roi qui gère les choses avec sagesse, bonté, etc. Donc, lorsque les forces qui sont liées à ces rois ne peuvent plus contenir les forces asuriques, donc c'est là qu'il faut qu'il y ait des forces, je dirais, divines, entre guillemets, qui interviennent. Ou alors, c'est le carnage. Alors donc, les Chinois donc, ont amené, effectivement, leurs idéogrammes, ce qui a été quand même un grand coup, parce que du coup, ça nous permet quand même, nous, de lire les textes bouddhistes, mais au même titre que les textes confucéens, qui sont des textes très anciens, presque comme si c'était le texte actuel. Donc c'est quand même quelque chose qui est énorme. Ils ont également amené à l'intérieur de ces, on pourrait dire, une certaine humanisation des dieux. Ils ont amené un certain nombre de légendes qui se sont, même certaines qui sont carrément cocasses, qui se sont développées à partir des dieux, parce que dans l'âme chinoise, il n'y avait pas cette espèce de respect, enfin je ne sais pas si c'est le respect, mais enfin d'adoration et de respect qu'il y a dans l'âme indienne et dans l'âme chinoise, même quand on parle d'un grand sage, même là au-dessous, n'importe quoi, on a quand même toujours trois ou quatre anecdotes grotesques à raconter sur lui. Et ça fait partie du personnage et du jeu. Et du coup, ils ont, on voit ça aussi beaucoup dans l'art chinois, ils ont représenté dans beaucoup de cas un peu tous ces mondes célestes, mais un petit peu comme comme une transposition céleste finalement de l'ordre chinois, de l'ordre impérial chinois, avec les différentes classes de fonctionnaires. Et donc, notamment dans pas mal de romans chinois, enfin bon, qui sont des choses relativement récentes, qu'on voit à partir du XVIe siècle, du XVe siècle même, vous avez quand même un petit peu ces dieux qui interviennent et qui, bon, qui semblent quand même très humains, quoi, avec tous les travers des hommes, c'est le moins qu'on puisse dire. Par contre, il y a également quelques dieux chinois qui ont rejoint le panthéon bouddhiste. Alors, c'est rarement les dieux chinois que l'on connaît, tels que ceux qu'on trouve dans le taoïsme. Alors, c'était souvent des dieux, je pense, qui étaient vraiment très loin dans la pensée chinoise, mais complètement préclassique, qui sont souvent justement peut-être des résurgences de certaines formes de chamanisme, là, ou de choses comme ça. Les étoiles, certaines étoiles, par exemple, ou des choses comme ça. Ou le soleil. Encore qu'on le trouve également là, à ce niveau-là, c'est assez difficile de distinguer, parce que finalement, dans la pensée indienne antique également, des choses comme le soleil, la terre, la lune, etc., ont des sortes de statuts de divinité, même si on a du mal à les ranger dans le système que je vous ai montré tout à l'heure, etc. Donc là, on a l'impression que là, effectivement, il y a une sorte de vieux fond, le ciel également, de vieux fond chamaniste qui a été repris et qui a été transposé. Alors, les Chinois ont également à peu près la même chose, mais avec des caractéristiques différentes, qui, elles, semblent davantage que des choses qui sont venues du Nord, je pense, des peuples mongols, des Scythes ou d'Asie centrale. Et on trouve effectivement donc des caractéristiques de ce genre de dieu. Par exemple, même dans les dieux qu'il y a sur le Gonzon, que nous évoquons dans la prière de salut aux divinités le matin, il y a certains, je ne sais même pas s'ils sont finalement, parce qu'on les retrouve à la fois en Chine et en Inde, mais vraiment dans la période très antique et tout à fait antérieure au bouddhisme. Par exemple, le soleil, la lune et je sais pas, les multiples constellations.
Lumière.
Oui. Donc ça, c'est... Moi, je pense que rajouter comme ils sont rajoutés là, moi, j'y verrais plutôt, mais enfin, ça s'applique plus en personne, plutôt une influence chinoise qu'indienne. Parce qu'en Inde, c'est un truc qui est quand même plus construit, quelque part, et je dirais plus philosophique que cette espèce d'adoration. Et finalement, la pensée chinoise, elle, a récupéré, peut-être a moins changé, parce que la Chine fossilise quand même beaucoup les choses, donc il y a des morceaux je pense d'une pensée très très ancienne là. Également on trouve, mais alors là qui n'ont pas été tellement repris dans le bouddhisme, je n'aurai pas beaucoup d'exemples, mais il y a des divinités chinoises, je pense à Fuxi par exemple, qui aurait été l'inventeur de l'écriture. Et je crois d'une partie de peut-être aussi de l'agriculture, qui sont probablement ce qu'on appelle de l'évémérisme, c'est-à-dire, enfin on suppose, des grands hommes des premières périodes de l'Antiquité, même plus loin que l'Antiquité, qui ont amené des choses étonnantes et qui ont entraîné une sorte d'adoration et qui en ont fait des sortes de semi-dieux ou de héros ou de choses comme ça. Eux, ils sont très peu cités dans le bouddhisme, mais parfois ça peut arriver. Donc, je vous ai parlé des dieux dans l'Inde, je vous ai parlé de la manière dont ces dieux indiens apparaissaient dans la littérature bouddhique, notamment dans le Strat Lotus, et je vous ai parlé, alors là, bon, je n'ai pas fait beaucoup de recherches, donc ça a été un petit peu rapide, de ces divinités dans la pensée chinoise, mais telles qu'elles apparaissent dans le bouddhisme. Je ne voulais pas du tout évoquer ni l'aspect confucien, ni l'aspect taoïste, ni d'autres choses. Hein, donc, les Chinois seraient là, ils ne seraient pas du tout... ils penseraient que j'ai fait quelque chose d'extrêmement sectaire et partiel. Alors, maintenant, et avant d'en arriver à notre conclusion, je vais vous parler des dieux dans l'œuvre de Nichiren. Alors, dans les écrits de Nichiren, le monde des dieux et ses différents protagonistes sont extrêmement présents. Je veux dire, il y a, on aurait du mal à citer tous les textes dont il en parle, mais enfin, je veux dire, dans la plupart des textes, hein, je dans beaucoup de textes, au moins dans tout ce qui est traité. Alors, on trouve non seulement et beaucoup les dieux de l'Inde antique et du bouddhisme, et donc du bouddhisme primitif, et toutes les légendes qui leur sont attachées, toute la mythologie, tous les symboles, etc. Mais également, comme je vous l'ai dit, donc une importation de certaines caractéristiques chinoises, et également, alors c'est là où c'est également original, des dieux populaires du Japon, du moins de son époque, mais qui sont restés jusqu'à aujourd'hui. Et notamment un apport de ce qu'on a appelé par la suite le shintoïsme, le shinto, et par exemple qui sont Hachiman et Tensho Daijin, dont le nom d'ailleurs figure sur chacun de ces personnages sur le Gonzon. Alors j'essaie de me tenir un seul texte de Nichiren, où il parle vraiment non seulement... Parce qu'il y a quand même beaucoup de textes où il parle des dieux et des légendes, etc. Et puis, il y a des textes, même parmi les premiers dessins qu'a fait Nichiren, où il y a son rapport à lui, au dieu, la manière dont il lui apparaît à lui. Il y a même, je crois que c'est un des premiers textes qu'on a de Nichiren, où on le voit lui, il s'est représenté lui-même sous la forme d'un petit moine avec un chapeau, etc. Et puis, il y a une sorte de dieu, je crois que c'est Fudo, Akala, donc, qui lui apparaît. Et donc il le dépeint, donc c'est une nuit où il y a à la fois Akala, donc Fudo, et Aizen, c'est-à-dire Raga, donc qui lui sont apparus. Et donc ça fait. Donc Nichiren est un homme qui a un rapport au dieu. Donc c'est pour ça que c'est un truc qu'on ne peut pas passer par perte et profit en quelque sorte. Hein. Parce que, je veux dire, tout le monde n'a pas un rapport au Dieu, tout le monde ne peut pas en dessiner, tout le monde ne peut pas avoir rencontré tel Dieu tel jour, etc.
Il leur parle carrément quand ils veulent le décapiter ou je sais pas quoi.
Oui, alors justement, c'est le texte. C'est le texte dont je veux parler. Et oui. Alors, il y a un texte célèbre qui s'appelle Les Actes, Shuju Ofurumai, Gosho en japonais, qui est écrit en 1275, donc à l'époque où il vient d'arriver au mont Minobu, et dans lequel il relate comment, sur le chemin nocturne de son de ce qu'il devait être son exécution capitale, il a pris publiquement à partie Hachiman, justement, la divinité du Japon. Alors c'est intéressant qu'il prenne Hachiman à partie et non pas l'autre divinité très faible connue Tensho Daijin, donc qui est une forme plus féminine, alors que Hachiman, enfin, on reviendra là-dessus tout à l'heure, mais est un personnage qui au début était un dieu de récolte, qui ensuite est devenu un dieu de lumière, ensuite qui est devenu un dieu guerrier. Là on voit un peu l'évolution du Japon ancien. Et donc cette divinité incarne on pourrait dire les valeurs du Japon, pas tellement comme l'autre divinité Tensho Daijin, c'est les valeurs qui sont à l'origine du Japon, ou de la lignée impériale, ou de l'existence du Japon, mais les valeurs, je peux comment dire, en fait, de la culture japonaise, qui a évolué. Là, c'est celui qui est agissant, c'est pas celui qui est aux origines. Et donc, Nichiren, monté sur son cheval, prend à partie Hachiman, on peut dire l'engueule d'une certaine manière, donc lui reproche, il dit voilà, moi je vais être décapité, si tu laisses faire les choses, ça veut dire que le serment que tu as fait de protéger le pratiquant de Sutra Lotus, eh ben, ne sera pas tenu, donc que tu es quelqu'un qui est parjure. Parce que si tu me laisses être décapité, mais là a priori il part pour être décapité, hein. Et donc tout le monde est très surpris ils doivent penser que ce moine qui va être exécuté a eu un coup de chaud, quoi. Et on est très surpris que Nichiren donc se comporte comme ça. Les gens quand même ils savent pas à quoi s'en tenir. Alors l'histoire vous la connaissez, mais en fait ça vaut quand même la peine de l'avoir au travers des mots de Nichiren, Donc, au moment. Alors, donc, pour remettre les choses dans leur contexte, parce qu'il y a quand même là-dessus un certain nombre de choses qui ont été dites, vous voyez, Nichiren n'a jamais été condamné à mort, d'un point de vue juridique. Nichiren a été condamné à l'exil dans l'île de Sado. C'était quelque chose qui était courant à l'époque, que les officiels de haut rang qui pouvaient, comment dirais-je, exécuter les condamnations, c'était quelque chose mais qui entrait complètement dans les mœurs de l'époque, c'est qu'on pouvait faire qu'une condamnation soit plus lourde que ce qui a été décidé. Et dans le cas de Nichiren, d'un coup, alors qu'avant de partir en exil, donc il était gardé dans une résidence, surveillé, et d'un coup, en pleine nuit, on est venu le chercher, et là, enfin je suppose qu'il a compris, qu'on l'emmenait nuitamment pour le tuer. Mais ce n'était pas une... comment dirais-je... c'était pas une, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un tribunal qui l'a jugé, enfin, à l'époque ça se passait pas comme ça, et qui a dit la peine de mort. Et donc, on l'a emmené, mais donc, entre la résidence où il était et la plage, c'était une sorte de plage à Kamakura, que maintenant on appelle le Byuko ou Tatsunokuchi, donc où on l'a emmené, il y a un chemin, et donc, c'est pour ça également qu'il y a relativement peu de disciples qui sont venus avec lui jusque-là, c'est-à-dire des gens qui ont été prévenus à tout à l'heure en plein milieu de la nuit, hein, et Shijo Kingo était parmi eux, mais beaucoup de disciples importants n'étaient pas là. Évidemment, ces gens auraient été là s'ils savaient que Nichiren devait être emmené pour être tué. Mais les choses se sont passées relativement vite, donc je ne sais pas comment ça s'est passé, mais enfin, la personne qui a pu prévenir quelqu'un a prévenu quelques-uns parmi peut-être les gens qui étaient les plus proches, parce qu'il y avait également peut-être des distances à parcourir ou quoi que ce soit. Des gens influents que comptait Nichiren, par exemple, parmi ses disciples comme Toki ou quoi que ce soit, et qui auraient peut-être des gens qui auraient pu faire quelque chose n'étaient pas là. Ou était prévenu trop tard, ou enfin, bon, je ne sais pas comment ça s'est passé, mais enfin, donc il y a relativement peu de monde. Et donc le truc était fait un petit peu en douce, quoi. C'était pas une exécution capitale normale, ou quoi que ce soit. Et donc c'est un officiel japonais, Eino Yoritsuna, donc, qui lui-même a décidé, ça va bien avec ce moine. C'est peut-être pas à peine qu'on l'envoie en exil, peut-être qu'on va arrêter les choses là. Et donc il est emmené pour être exécuté. Dès qu'il est emmené, en fait, je suppose qu'il sait, parce que ça faisait partie des mœurs de l'époque, et les autres aussi qui étaient là savent que c'est pour le tuer. Là, le truc est évident. Et donc, il s'en prend à Hachiman, cette divinité, et donc il lui reproche très vertement de ne pas tenir le serment qu'il a fait de protéger le pratiquant du Spray Lotus. Nichiren leur dit, enfin, si c'est pas moi qui est le pratiquant du Lotus, alors c'est qui et donc Hachiman ne le protège pas, et donc Hachiman faillit à son serment. D'ailleurs, Nichiren lui parle, il a souvent eu cette manière que de tenser un peu les divinités. C'est-à-dire que dans le fil de l'enseignement bouddhique, où les états, auditeurs, bodhisattva, bouddha, etc., sont au-delà des six mondes, donc les états bouddhiques sont supérieurs à celui des dieux, même des dieux les plus... immatériel qu'on a vu tout à l'heure. Et donc, Nichiren lui parle comme qu'on parlerait à quelqu'un qui ne fait pas son boulot, quoi, qui ne remplit pas les obligations qui sont les siennes. Et donc, Nichiren, il lui dit, moi, quand j'arriverai, parce que pour Nichiren, il n'y a aucun doute, s'il est décapité, il va aller directement au pic, au mont du vautour, au mont sacré du vautour, et il va immédiatement voir le Bouddha. Donc, il va arriver direct. Et il dit, la première chose que je dirais, dis-moi, c'est que Hachiman, il a failli. Et alors, les gens, quand même, il faut s'imaginer l'assistance qui était là. Les gens se disaient, enfin, je ne sais pas ce qu'ils disaient, mais enfin, ça devait être quand même... Il y a peu de gens, je suppose, qu'on emmenait pour être exécuté et qui faisaient un cirque pareil. L'histoire, vous la connaissez. Donc, au moment de l'exécution, donc il devait se passer, c'est un truc où il devait y avoir finalement assez peu de monde. D'un coup, en quelque sorte, on a l'impression, surtout quand on lit vraiment le texte, que l'environnement, mais c'est vraiment comme un décor de théâtre, mais ne réagit plus tout normalement. C'est-à-dire tout commence à tout le décor commence à partir à s'énerver, et il y a un objet lumineux qui jaillit. Alors, je crois que Nichiren dit que ça venait de la région d'une île qui est un petit peu plus loin, mais qu'on voit, moi, j'y suis allé, hein, qu'on voit qu'on est à Kamakura, qui est maintenant relié par un pont, qui est Enoshima, l'île de Enoshima, donc qui n'est pas très loin. Et dit donc, au-delà de Enoshima, il y a un objet lumineux qui a jailli. le bourreau a été aveuglé, il est tombé en avant. Donc, et puis après, il n'a plus voulu faire son boulot, le bourreau. Hein. Donc on trouve de moins en moins des gens qui sont prêts à faire leur boulot jusqu'au bout. Hein. Pareil, Edith Chirel, lui, il prenait tout le monde. D'ailleurs, il est très goguenard. Hein. Il prend tout le monde à partie. Il dit, allez, allez-y, faites votre travail. Hein, vous n'êtes pas venu ici pour rien, etc. Mais les gens, ils sont moins motivés d'un coup. Et donc, il décide de... Les gens qui sont là, qui à mon avis, ne devaient pas y avoir tellement d'officiels de très haut rang, ne sont pas les décisionnaires. Et eux, ils décident de sursoir. Donc, on ramène Nichiren, et on décide de le mettre en résidence surveillée, et je ne sais plus combien de temps il va rester, mais ça dure un certain temps. Mais le lendemain soir, alors, c'est vrai que là, il était dans un cycle assez fort, parce que le lendemain soir, il dit que donc il était en cette résidence, donc comme beaucoup de, à l'époque, de bâtiments occupés par des gens de haut rang au Japon, c'était souvent en forme de U avec le mur devant, et puis au centre, donc vous avez trois bâtiments qui sont comme ça, et au centre vous avez une sorte de, je sais pas, de terre-plein ou de jardin, ou c'est pas comment c'était aménagé, et donc chacun des bâtiments, enfin, toujours le bâtiment du fond, il y a ce qu'on appelle un engawa, c'est-à-dire une sorte d'auvent, c'est-à-dire de galerie, avec un toit par-dessus, où souvent les Japonais aiment bien rester là-dessus. Et ça s'ouvre par des shoji, des portes coulissantes, enfin des portes en papier en général, hein, ou en carton, sur l'intérieur. Et donc, Nichiren était là, dans cet endroit, sur la engawa. Il y avait un certain nombre de soldats, probablement assez désœuvrés, qu'il gardait vaguement, enfin qui étaient là aussi. Et Nichiren, donc, alors c'est assez intéressant parce qu'il dit un peu quelle était la pratique qui était la sienne, parce qu'on est encore à une époque où la pratique n'est pas codifiée, Nichiren n'a jamais codifié la pratique à son époque, donc il dit qu'il récite des passages du sutra, peut-être les passages qui lui passent par la tête, ensuite il se lance dans un discours pour démontrer l'infériorité de certains enseignements bouddhistes sur d'autres. Et puis ensuite, il s'en prend à une autre divinité, je crois que c'est la lune, à ce moment-là. Et donc, il dit que hier, il y a une première divinité qui lui est apparue, donc sous la forme de cet objet céleste. Et donc, il dit qu'il entend que cette divinité lunaire ne soit pas en reste. Et donc, il demande qu'il se passe quelque chose dans l'instant même. Et devant les soldats qui étaient là et qui gardaient vaguement, à ce moment, il y a un objet lumineux qui tombe du ciel et qui se suspend dans un prunier, dit-il, juste devant lui, et qui reste là en suspension, et les gens sont tout à fait stupéfaits de ce qui se passe. Et il y a également différents phénomènes atmosphériques qui se passent, des bruits, des choses comme ça, etc. Alors, moi je ne vais pas tellement épiloguer sur ce genre de choses, ou dire... ce que ça présentait physiquement ou pas, parce que je dirais que c'est pas c'est pas Tintin le temple du soleil en fait, hein. C'est pas le fait qu'au moment de l'exécution il y a eu une éclipse ou quoi, et qu'il y aurait des populations qui savent pas bien ce que c'est que les éclipses et qui donc en fait ce qui se passe c'est que il y a des choses, alors je sais pas si c'est un miracle ou pas un miracle ou quoi que ce soit, mais qui ont fait que des humains n'ont pas pu mettre à mort Nichiren. Si on essaie de dire les choses d'une manière factuelle, des humains qui l'avaient décidé, qui avaient pour eux la force physique, les sabres, enfin ce qu'il faut pour tuer trancher, hein, n'ont pas pu le mettre à mort. C'est-à-dire, il n'a pas été crucifié. Qu'il y a des forces qui se sont mises en jeu et qui ont empêché ça. De la manière que, comment dirais-je, qui était la plus spectaculaire pour les humains qui avaient décidé de tuer, ou qui étaient leurs instruments, parce que le bourreau, lui, il décide pas grand-chose, il fait son boulot, c'est tout. Mais, donc, il y a des forces qui se sont mises en jeu. Alors, de cela, si on prend aussi au niveau des fêtes, hein, de ce que relate Nichiren, alors ce qu'il faut quand même savoir, c'est qu'au niveau de Nichiren, finalement, on n'a aucun écrit, presque à part les siens, ou ceux de ses disciples, qui parlent de lui. C'est-à-dire qu'il y a juste un truc, mais qui est très vague. qui existe. Mais en fait, tout ce qu'on sait de Nichiren, c'est à partir de ce que lui en dit, finalement. Donc, si on reprend les faits par eux-mêmes, il y a toujours, dans ces deux choses qui se sont passées, qui ont empêché son exécution et qui ont fait que le lendemain, il y a des phénomènes lumineux et atmosphériques qui se sont produits dans le jardin où il était, il y a toujours de sa part un premier temps qui est une exhortation des dieux, dans les deux cas. Dans le premier cas, c'est beaucoup plus fort, parce que là, effectivement, il y a sa vie qui est en jeu, mais c'est-à-dire qu'on a l'impression que le... Je peux vous dire, mais ces dieux, il faut les remuer pour qu'ils fassent quelque chose, quoi. Il faut bien voir que dans le bouddhisme, ces dieux ne représentent pas la forme suprême de l'existence. Eux-mêmes doivent être sauvés, eux-mêmes doivent devenir des bouddhas, eux-mêmes doivent gagner leur salut, et ils ne le peuvent que par l'enseignement bouddhique. Ils ont donc, parmi les actes, au même titre que nous faisons des actes, mais eux aussi doivent faire des actes, et parmi ces actes qu'ils doivent faire, ils doivent donc protéger la loi bouddhique. Ils représentent, ils ont la possibilité de mettre en œuvre des forces qui sont suprahumaines. C'est d'ailleurs ce qu'indique l'étymologie du caractère chinois. Il est intéressant de noter que à la lecture des textes de Nichiren ci-dessus, il faut que néanmoins qu'il y ait une force qui les y oblige. C'est le rôle des exhortations qu'il fait. Ce miracle ne se produit pas spontanément, si on peut parler de miracle. C'est pas un miracle de la grâce, en quelque sorte. C'est pas il est sauvé, il est innocent et il est sauvé. C'est lui qui dit ça ne peut pas se passer comme ça. Maintenant, ok, les hommes, ils ont décidé que ça se passera comme ça, mais maintenant, il faut qu'il y ait des forces suprahumaines qui font que ça se passe autrement. On ne limite pas nos choses aux hommes. Alors, dans cette idée, on est, encore une fois, assez proche et de l'étymologie du caractère chinois, qui désigne effectivement ce qui est au-delà même de l'homme adulte, ce qui est les forces qui sont offertes à lui, et on est également, d'une certaine manière, pas très loin des idées, des conceptions indiennes antiques, c'est-à-dire que, quelque part, c'est aux hommes de faire que les dieux interviennent pour que les forces asuriques, enfin des asuras, ne pullulent pas. Parce qu'ils amènent un désordre qui est vraiment trop grand et qui est toujours la violence, la guerre, etc. Donc, souvent, si vous voulez, dans cette notion des dieux dans le bouddhisme, du moins de Nichiren, représente d'un coup l'intervention de forces supérieures aux forces humaines, c'est-à-dire qu'on fait marcher les forces humaines jusque là où elles peuvent marcher. Et puis ensuite, s'il faut quelque chose de plus, il y a le plus. Et il y a des forces, mais c'est pour des cas importants, en quelque sorte, hein. On ne peut pas demander aux divinités de régler des petits détails ou des choses comme ça. Là, on voit que c'est sa vie qui est en jeu, c'est la validité de l'enseignement qui est en jeu, c'est le fait, il le dit d'ailleurs dans le sermon qu'il fait, si lui il est tué, au bout du compte, ça prouvera que le Bouddha avait été un menteur. Parce que il est prévu que l'Australiotus et tout, etc., et ben, le type qui a été le pratiquant d'Australiotus, et ben, de simple fonctionnaire officiel, pour des raisons qui sont les leurs, mais qui valent que ce qu'elles valent, ben ils peuvent le mettre à mort comme ils veulent. Et donc ça, c'est pas possible. Des commentaires, des questions sur ces points.
Non, mais je rapproche toujours ça de quelque chose que je... Enfin, de ce que je traverse au même temps et de... Tu vois, par exemple, le fait d'avoir pris le ciel, ce qui est la limite de ce qu'on voit quand on regarde au-dessus. Et justement, je suis souvent en référence avec cette idée que on perçoit les choses de notre monde, Mais qu'est-ce que c'est les choses qui ne sont pas de notre monde? Alors, je pensais, un truc que j'ai entendu sur une radio, là, il comparait des fourmis,
oui.
Et puis notre intervention sur le... sur une fourmilière en passant.
Oui.
Tu vois, quand on passe à côté d'une fourmilière, bon, bah, les fourmis elles continuent à faire leur truc, mais elles ne nous voient pas.
Oui, oui.
Mais pourtant, si on passe la tondeuse à gazon sur la fourmilière, bon, elle le voit, elle voit qu'il y a un truc qui n'est pas comme d'habitude.
Oui, 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 oui. Ah oui, tout à fait.
Et quoi?
Oui.
Tu vois, il y a des forces extérieures,
oui,
etc.
Oui.
Donc, en parallèle, on pourrait imaginer ça, ce qui est, ce qu'on ne peut pas voir, mais qui est agissant d'une certaine manière et qu'on ne peut pas... C'est-à-dire un monde qu'on ne peut pas percevoir parce qu'on n'a pas les objets physiques pour percevoir ce monde. Quoi. Et souvent, il y a cette idée qu'on vit certainement avec plein de mondes parallèles, mais on ne le voit pas. Et même des choses plus simples, hein, j'imagine les bactéries, tout ça, qu'on ne voit pas du tout. Quoi. On est capable de faire un tas de bidules sur elles, mais elles vivent leur vie, et puis pour la... jusqu'à temps qu'on s'aperçoive que ça existe, on ne savait pas que ça existait. Donc il y a un peu cette... Pour moi, hein, c'est cette idée du ciel. Et surtout quand on arrive à la forme, alors déjà, l'idée de mettre le monde des désirs, c'est-à-dire le monde des projections, en fait. Ensuite, le monde de la forme qu'on a du mal à avoir une certaine réalité. Et après, le sans-forme qui est... En fait, je me dis, c'est marrant, c'est comme s'il y avait une voie, une voie parallèle. Et puis après, on amène les quatre saints et le bouddhisme qui reste humain, en fait. Alors que l'autre voie est un monde que... qui existe peut-être, mais on n'y a pas accès du tout.
Tout à fait. Oui.
Et que, en fait, dans ce monde qui est autre ou je ne sais pas quoi, il y a certainement un état d'ouverture, d'éveil, etc. Mais, en fait, en ce qui concerne les humains, si on ne va pas du côté bah, les quatre saints, quoi, on peut se perdre en cherchant un truc qu'on ne verra jamais. Enfin, qu'on aura du mal à voir, mais c'est peut-être pas la bonne direction. Quoi. Enfin bon, donc tu vois, il y a une sorte de... comme ça, de sensation. En plus, bon, avec la fin du texte aussi, c'est vrai que je reviens encore sur la synchronicité, quoi. Ce qui se passe, qui est très significatif pour certaines personnes et qui sont transparentes pour d'autres, quoi. Donc ce qu'on voit ou ce qu'on perçoit comme ça, c'est vrai que tu te pointes quelque part, il y a un mec qui commence à crier après les divinités, etc. Tu te dis, bon, tu vas tomber des trucs du ciel et tout, tu te dis, bon, ok. Mais en tous les cas, pour les assistants, c'est significatif pour eux-mêmes. S'ils ne comprennent pas, ça a un sens dans leurs émotions. Dans...
Parce que ce qui est important aussi, enfin, du coup, quand tu parles des fourmis et de la tondeuse, etc. et tout, c'est que quand on parle de l'immonde, donc on a ces mondes qui s'élèvent en quelque sorte de l'enfer, je veux dire, jusqu'au monde des Bouddhas, tout à fait en haut. Mais en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a ce qu'on appelle la présence mutuelle des immondes. C'est-à-dire qu'il y a les immondes. Alors, en réel, je ne sais pas si c'est le terme qu'on peut dire, mais enfin, il y a les immondes tels qu'ils existent pour les êtres qui les peuplent. Donc il y a le monde 10, mettons, c'est le monde des Bouddhas, et puis le monde 1, c'est le monde de l'enfer, et puis il y a tous les mondes entre temps avec évidemment au milieu, en plein milieu, patatrac, le monde des hommes, ça tombe bien, c'est nous. Mais ce qui se passe, c'est que dans chacun de ces 10 mondes, ils ont une vue, alors qui nous surprendrait sans grandement, des autres mondes. Et donc nous, qu'on appelle des dieux, ce qu'on appelle des bouddhas, ça c'est le monde des hommes, hein, au bout du compte. Hein. Peut-être que si on demandait aux principaux intéressés ce qu'ils en pensent, eux, ils auraient une vie encore différente. C'est ce qui fait que de 10 mondes, on arrive à 100 mondes, en quelque sorte. C'est-à-dire que pour chacun de ces mondes, il y a une représentation des autres mondes
représentation.
Qui est réelle. Qui est réel, qui est au moins réel pour eux. C'est l'exemple que je prends souvent, par exemple, mon chien qui fait partie du monde des animaux, peut-être que pour lui, enfin j'en sais rien, mais peut-être que si on lui passait le micro pour donner la parole, il dirait des choses extravagantes, mais pour lui, je suis peut-être une sorte de Dieu, parce que j'existais avant qu'il arrive, c'est toujours moi qui l'ai, enfin moi ou les miens qui l'ai nourri, donc je représente un être qui existait avant que lui soit là, peut-être qui existe toute une éternité, on n'en sait rien, qui tous les soirs fait qu'il y a un repas qui tombe, etc. Je veux dire, c'est un rôle qui est pratiquement divin. Mais je ne suis pas un dieu, je suis qu'un homme, c'est le seul problème. Si je suis un dieu, c'est que pour lui, quoi, c'est le seul problème. Mais en fait, dans chacun de ces mondes, il y a une vue des autres mondes. Les autres mondes existent, mais sont pris d'une manière, mais qui est vraie pour eux, qui est vraie pour chacun d'entre eux.
Voilà, c'est ce que je me dis. Par exemple, un animal sauvage, un pied ou un truc comme ça, s'il doit passer, alors qu'il n'a pas l'habitude de devoir passer dans le coin...
Qu'est-ce que tu représentes? Juste un repas.
Voilà.
Pour lui, tu
vois. Ouais, sur l'odeur, tout ça, bon, il faut voir. Ouais. Mais sans plus, tu peux. S'il n'a pas faim, tu passeras.
Tu lui dis, écoutez, je fais partie du monde des hommes, je pouvais réciter le fable de La Fontaine, tout ça, etc. Ça te dit qu'il y a l'acte des dents.
Par exemple, c'est vrai que pour le chien, il est presque humain. Enfin, il vit dans... Voilà, c'est ça. Je me dis, comment il peut nous... Il nous voit soit comme des super chiens,
donc, il y a une autre... Par les autres mondes, il y a une autre vue de notre propre monde, mais qui est également vraie, parce qu'elle conditionne leur... Donc, tout ça, c'est un acteur de relativisme multi... qui s'influence mutuellement, quoi. Mm-hmm. Alors, une dernière chose, dont bon, sur laquelle je pense qu'on ne pourra pas tellement conclure, je ne sais pas s'il y a tellement de conclusions à apporter, c'est ce que j'appellerais le traitement et la place du mythe. Parce qu'on voit bien que, au travers des différentes choses que je vous ai racontées aujourd'hui sur le sur les dieux indiens, sur les asuras, sur différentes choses, etc., on voit bien que tout ça, et a fortiori, je veux dire, si on va dans la littérature bouddhique, si on voit ce que représente tel ou tel roi asura, les différents ogres, enfin toutes ces espèces de créatures assez bizarroïdes, on voit bien que là-dedans, il y a de la génération de mythes. Il y a de la génération de mythes et de symboles. Et en fait, c'est pareil aussi dans certaines grandes épopées indiennes, je pense notamment au Mahabharata par exemple, cette espèce de richesse des mythes et de profusion des mythes crée un monde, enfin un ensemble de représentations qui, à mon avis, est d'une rare richesse et qui donne énormément de, comment dirais-je, de perspectives sur notre monde, sur les rapports que nous avons avec les autres hommes, sur ce que représente le... ce qui se passe au niveau de la société, au niveau de la politique, au niveau de l'histoire, à tout niveau. C'est-à-dire que c'est vraiment cette espèce de fond qu'il y a dans le bouddhisme, qui est extrêmement présent dans le lotus, sur toutes ces histoires qu'on pourrait dire extravagantes quelque part. En fait, le problème, c'est pas tellement de savoir si c'est vrai ou pas. Je veux dire, quand on lit par exemple le lotus, c'est tellement de choses extravagantes que il y a extrêmement peu de chances qu'il y ait quoi que ce soit qui se soit passé comme cela. Mais ce qui est important, c'est les clés étranges de la manière de prendre le réel dans d'autres sens que les sens, je dirais, ordinaires. Et tout ce que cela peut ouvrir, il me semble que ce qui est important, c'est pas tellement le fait de savoir que les dieux existent, et encore de quelle existence, parce que finalement je ne peux parler que de l'existence humaine et des représentations de différentes choses. Tu évoquais les bactéries tout à l'heure, l'idée que j'ai des bactéries, je suis pas tout un spécialiste de ce genre de choses, ou quoi que ce soit, mais une idée, ce n'est qu'une représentation, et sans doute une représentation, bon, évidemment, beaucoup moins intéressante que celle que pourraient avoir des spécialistes. Mais l'idée qu'on avait, dans la médecine ici, il y a 400 ans, donc quand ça ne s'appelait pas des bactéries, ça s'appelait autrement, etc., il y a complètement d'autres formes de représentation. On a l'impression que certaines ont une incidence sur le réel, d'autres sont des mythes qui tombent en désuétude parce que leur incidence, à partir d'un certain moment de l'histoire, ne fonctionne plus. Si on voit des grands mythes, tels qu'ils soient, tels que certains mythes bibliques, ou moi je sais pas, ou Oedipe, ou Jonas dans sa baleine, ou des choses comme ça, etc., etc., ou Icare et Dédale dans leur labyrinthe, le Minotaure, ou des choses comme ça. Ces mythes, en fait, je veux dire, sont des richesses du savoir humain. Je pense pas qu'on puisse simplement donner une clé. C'est-à-dire, bon, ben voilà, dans l'affaire avec le labyrinthe, le Minotaure, ça représente ça. Chacun peut avoir une idée de cette affaire. Pourquoi ces choses nous parlent d'une manière souvent aussi forte? Je ne sais pas. Le tout, donc, c'est pas de savoir si M. Minotaure a existé ou pas, s'il avait des papiers d'identité, si M. Oedipe a existé ou s'il n'a pas existé, ou pareil, ici, pour je ne sais pas quoi, les ogresses, etc. et tout. Mais il y a là-dedans un savoir. Alors, un savoir qui ne se décline pas sous les mêmes formes que le savoir normal, que le savoir scolaire, qui sont des moyens, même parfois très poétiques, en sorte d'investir le réel. Et puis, derrière tout ça, enfin, il y a également, parce que tout est affaire de signification et de représentation. Le bouddhisme le montre bien, enfin, le monde n'est pas que matériel, loin de là, et tout influe sur tout. C'est-à-dire que ce qui est non matériel influe sur ce qui est matériel et inversement. Donc, je crois que la place faible qui a été faite à ces mythes, justement, on en parlait un peu au début de notre réunion, par ceux qui, comment dirais-je, qui pensent donner une certaine vue du bouddhisme aujourd'hui, pour eux, cette affaire avec des dieux, des trucs, des machins, c'est une pierre dans leur jardin, c'est évident, parce que eux, ils veulent donner une vue simple des choses, accessible pour l'homme moderne, pas pour n'importe qui, etc. Et tout. Et puis d'un coup, on vient leur raconter des histoires extravagantes, avec des asuras qui viennent de sous terre, etc. Et tout. Bon, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Donc pour eux, il y a un problème, c'est-à-dire à place de poser le problème d'une manière bouddhique, c'est-à-dire à plat, c'est-à-dire qu'on pose tous les éléments du problème, et puis ensuite de quoi? On voit si ça veut dire quelque chose, c'est intéressant, pas intéressant, peut-être qu'il faut jeter tout ça, j'en sais rien, mais on voit ce qu'on peut en faire. Et pour eux, vu que le but c'est d'arriver immédiatement à une finalité compréhensible pour tous, etc., donc vis-à-vis de ça, ils disent, eh ben hop là, bon, n'importe quoi, c'est des forces naturelles, c'est ceci, c'est cela. Mais, en fait, le problème de ce genre de mythe, c'est que c'est une matière qui est inépuisable. C'est-à-dire que certains, et qu'est-ce qu'il va faire, par exemple, que personnellement je vais me sentir concerné en lisant un certain nombre de choses, de légendes, etc., et que toi c'est d'autres choses que tu vas lire ou que tu vas découvrir, etc., qui vont te concerner toi, qui ne seront pas les mêmes que celles qui vont concerner moi. Donc il y a cette espèce de fond qui est complètement protéiforme, hein, de toutes sortes de mythes, d'histoires parfois abracadabrantes, je veux dire, quand moi je m'étais intéressé à cette époque à la statuaire bouddhique. Et donc savoir pourquoi je dire tel personnage est vu avec tels attributs, telles armes, telles choses, etc. Et en fait, ça renvoie à beaucoup de choses. On a l'impression que c'est un truc qui est un peu sans fin et que c'est une sorte d'imagination qui rêve tout cela en permanence, qui rajoute des choses, qui en enlève. C'est assez étonnant. Et je crois qu'il y a dans une richesse et un savoir, même s'ils ne sont pas reconnus dans l'idée que l'on a actuellement des savoirs, des techniques, etc.
De toute façon, en plus, ça a été pondu par des êtres humains, quoi.
Oui.
Qui parlent de quelque chose qui leur est venu comme ça, et si c'est resté, c'est que ça a accroché la sensibilité de plein de gens, quoi.
Oui.
Donc je pense que ce qui est resté depuis si longtemps, ça fait vibrer pas mal de gens.
Oui, et puis ça nous forme aussi, parce que ces choses sont passées dans l'art, sont passées dans la représentation, sont passées dans toutes sortes de choses. Ces choses, au fur et à mesure, ont formé les différentes civilisations. Il n'y a pas eu que elle non plus, il ne faut pas tout réduire, etc. Mais c'est un élément constitutif, à mon avis, important, et qu'on ne peut pas rapidement dégager. Et je ne crois pas d'ailleurs que ce soit intéressant de le dégager. Voilà ce dont je voulais causer aujourd'hui.
Bon, c'était...
Est-ce qu'il y a quelques questions, des réflexions ou quoi que ce soit sur ce sujet?
C'était pas mal, hein, pour être préparé en 10 minutes, franchement.
Merci, merci.
Ouais, plutôt, j'ai bien aimé un certain... Enfin, tout, mais...
parmi les studios d'Amélie, il y a des choses qui me paraissent éminemment pratiques. Par exemple, dès le départ, quand vous parlez du monde, en repositionnant ce que c'était, et que ce n'était pas simplement un état d'être, mais d'être et puis l'environnement. Donc ça montre bien que finalement, si on parle en plus du monde du Dharma, donc il faut faire avec tout cet ensemble, et on n'est pas isolé tout seul, à chercher sa voie. Donc c'était un premier point qui m'a percuté, mais bon. Que l'on sait par ailleurs, on est dit sous cette forme-là, avec ce monde-là, c'était plus fort peut-être pour moi. Mais puis il y avait quoi d'autre, c'était pas beaucoup de choses, mais... alors l'histoire du monde sans forme, je sais pas, par exemple, est-ce que dans cette notion-là, quand on parle du Bouddha en Nirmanakaya, c'est-à-dire quand il a aimé, il a perdu tout son... Est-ce que ça fait partie de... À ce moment-là, il est dans ce monde sans forme. Et est-ce que dans ce monde sans forme aussi, on peut considérer l'ultime, c'est l'absolu, c'est dont on peut rien dire, effectivement, mais qui c'est tout à fait aussi.
Non, je... j'aurais du mal à répondre, mais la seule chose, c'est que les mondes spécifiquement bouddhiques, hein, c'est-à-dire qui va du monde des auditeurs jusqu'au monde du Bouddha, sont des mondes qu'on dit qui sont une échappée hors de ces trois mondes, c'est-à-dire de la forme, du désir, de la forme et du sans-forme. Donc on a l'impression que au-delà de ces mondes tels qu'ils ont été définis dans les religions de l'Inde antique, le bouddhisme amène complètement quelque chose en plus. C'est-à-dire qu'il reprend à son compte une bonne partie des concepts qui existaient dans ces religions, et il y a amené quelque chose en plus. On pourrait dire que le dharma bouddhique, finalement, ne se situe pas... il est actif sur les différents mondes, mais il ne se situe pas dans le monde du désir, de la forme et du sans-forme, d'une certaine manière.
Oui, alors moi, c'est un peu ça, par rapport à ce que tu disais, c'est cette idée que, mais je n'avais pas pensé avant, c'est qu'il y a cette graduation comme ça, et puis... à partir du monde de la forme et du sans-forme qui peut aller très très haut, quoi. En fait, il y a à côté de ça les quatre voies du bouddhisme, mais qui restent pour nous, quoi. Alors que ce qui va plus haut, en fait, à la limite, ça ne nous concerne pas, parce que c'est... Enfin, moi, ça me fait penser au truc des fourmis, là. Au fait que peut-être qu'il y a des trucs, peut-être des géants, ou je sais pas quoi, je crois, qui... ou un monde auquel j'ai pas accès, quoi. Alors que dans le monde où je suis, je pourrais peut-être accéder à plus de sagesse, quoi. Enfin, moi, ça me donne cette impression-là.
C'est très agréable d'être un auditeur.
Mais je sais parce que ça m'arrive également.
Ok. Mais peut-être de ça, on peut rien dire. En plus, c'est très agréable. Mais peut-être que dans les quatre mondes supérieurs, quatre domaines, le monde des auditeurs n'est pas considéré comme étant le suprême.
Non, mais c'est déjà pas mal. Alors, non, enfin, non seulement c'est pas mal, mais sûr, c'est énorme, quoi.
Mais ça veut dire que quelque part, puisqu'il y a le mot éveil, on n'est pas condamné à rester dans les six mondes. Et donc, que il y a par l'intermédiaire, par exemple, des mythes que vous évoquiez, peut-être, là, la possibilité de sortir du cinquième monde qui est le nôtre.
Oui.
Donc, c'est ce côté, c'est en fait cet aspect-là qui nous intéresse.
Moi, je pense aussi que ces mythes représentent d'excellents, certains d'entre eux, hein, c'est pas tous, mais représentent d'excellents outils de compréhension, même de notre propre monde. Et ils sont porteurs de, comment dire, enfin, d'un regard, c'est assez bizarre, hein, parce qu'en fait, le tout, c'est, comment dirais-je, pour avoir un principe de levier, c'est d'avoir un point d'appui extérieur. Et parce que sans ça, je peux rien bouger, quoi, même avec la meilleure bonne volonté du monde. Et c'est vrai que ces mythes, donc, qui sont des choses qui viennent vraiment d'âges très éloignés de l'humanité, de pensées qui nous sont effectivement très extérieures, avec une symbolique forte, avec des résonances fortes, et qui ont également été, on pourrait dire, actives d'une certaine manière jusqu'à maintenant, peuvent, dans certains cas, donner des modes de compréhension du réel, qui est le nôtre, hein, que sans ça, qu'on ne pourrait pas imaginer. C'est-à-dire, c'est le...
Enfin, pour rejoindre ce que je dis, c'est vrai que moi, je travaille parfois avec des adolescents qui ne sont pas très bien, on travaille sur la mythologie grecque. C'est incroyable comment ça fonctionne.
Oui.
Ça leur parle, hein. On y trouve des réponses. Hein. Donc, c'est vrai que c'est assez important. Enfin,
Mais beaucoup de penseurs importants du XXe siècle, pas tous, sont des gens qui ont revisité les mythes. C'est évident.
La psychanalyse,
oui, par exemple, je sais pas, même Camus avec le mythe de Sisyphe, ou des choses comme ça. C'est quand même des choses qui sont importantes. C'est une des voies de savoir, bon, qui est poétique, hein, donc qui met des choses en branle, parfois qui sont vraiment très inattendues. Et si vous êtes d'accord, je vous propose que nous arrêtions là. Hein. On peut rester et boire un verre ensuite. On fait actuellement trois daimoku. La fois prochaine, si je vous propose, si vous êtes d'accord, que ce soit dans